Bonjour, c'est Romaric Briand. Vous écoutez La Cellule, podcast critique du jeu de rôle. Vous pouvez me soutenir en souscrivant à mon Patreon ou bien soutenir les auteurs et autrices de La Cellule en achetant leurs jeux. Bonne écoute! Prends ça.
Promis, je vais faire attention au micro cette
fois. Oh là là, elle est en train de lire mon truc.
Non, j'ai pas lu, j'ai lu maître du jeu, j'arrête.
T'es en train de lire mon truc. Elle a lu mon truc.
Ah oui, c'est ton truc, mais faut pas le laisser traîner partout non plus.
On laisse pas traîner un truc, Romaric.
Je vais traîner mon truc partout. Eh ben oui. Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de La Cellule. Aujourd'hui, je retrouve ma team de choc. Et mon accent belge, apparemment.
C'est très étonnant.
Je suis avec Flavie. Flavie, ça va la pêche.
Ouais, la pêche.
Avec Géraldine.
Salut.
Avec François.
Hello.
Et avec Valentin.
Hello, hello, hello.
Ça va la banane.
Impeccable.
Et c'est toi, Valentin, qui nous a ramené ce jeu formidable. Mais
c'est
tu nous l'as donné à maîtriser. Et c'est ça,
ça
qui est beau.
Exactement, ça me fait plaisir.
C'est plaisir d'offrir, joie de recevoir.
J'ai vu Apérol, je me suis dit, allez.
Alors, on n'a pas entendu la bière s'ouvrir, donc nous allons l'ouvrir. Alors là, c'est plus que de la stéréo.
Ça m'a fait quelque chose.
Trois micros.
De la ASMR.
Quelqu'un met son micro devant, met son micro.
Oh, oh, la mousse, oh la mousse. Ah, c'est incroyable. Et oui, une équipe de choc, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, on va tester l'apérol, donc qui est un...
Alors moi, j'ai une théorie sur le nom apérol.
Ouais.
C'est que c'est un jeu, faut être bourré.
Oui, alors...
Donc du coup, j'ai prévu la bière.
Alors précisons qu'on enregistre un lundi soir quand même.
Ça va être dur demain.
C'est ça. On est à jeun de la semaine, on peut dire ça comme ça. Donc ça va vite monter.
Horrible.
L'apérol. Donc qu'est-ce que c'est que l'apérol? Eh bien, c'est un jeu qui est publié par Hachette. Hachette qui est connu pour ses nombreuses boîtes d'initiation aux jeux de rôle, dont une qui avait été faite par Colline et Simon. Qu'on salue au passage, avec des histoires de pirates et d'aventures fantastiques. Donc, Hachette, notamment à travers la gamme qui est dirigée par un certain Antoine Béon, tiens, dont un nom connu, s'intéresse de plus en plus aux jeux de rôle et donc propose des petites boîtes d'initiation aux jeux de rôle. Et là, l'apérol, ça fait partie de ces fameuses boîtes d'initiation proposées par Hachette aux jeux de rôle. Et celle-ci a la particularité d'avoir été rédigée, inventée, créée par... je n'arrive pas à retenir son véritable nom. C'est Thibaut Villanova, mieux connu sous le nom de Gastronogeek. Alors, est-ce que tu connais Gastronogeek?
Ah oui, bien sûr. J'ai fait beaucoup de recettes grâce à ses vidéos Instagram. Mais je ne savais pas du tout...
Et voilà.
Qui avait écrit ça. Ok, ok, ok.
Vous connaissez Gastronogeek?
Pas du tout.
Ouais,
pas du
si,
tout.
Un petit peu, oui.
Alors, vas-y. Quelle est ton expérience par rapport à Gastronogeek?
J'ai pas encore...
Moi, je ne connais pas. Enfin, j'ai reconnu à l'apérol, donc j'ai découvert un petit peu aujourd'hui.
J'ai pas encore testé, parce que j'ai un nombre de jours limité dans la semaine et je peux pas cuisiner tout ce que je vois sur Internet. Mais
ouais.
Il a fait une recette d'œufs mollets frits. À essayer quand même.
D'accord.
Bah moi je peux un peu décrire
vas-y, je veux bien.
La personne.
Ouais, ça m'intéresse.
Moi je l'ai connu à l'époque, c'était au stream, le stream là qui était de la chaîne Webedia là sur Twitch.
Ouais.
Et je l'ai connu en fait, il faisait des recettes sur internet via YouTube. Et sa particularité à lui, c'est qu'il fait des bouquins et des recettes via ce qu'il peut voir dans la pop culture, ce qui est les mangas, les BD, les films super connus. Et donc, dès qu'il voit une recette, et ben, par ses connaissances, en fait, il va essayer de l'adapter par rapport à ce qu'il voit sur la photo, sur l'image, sur la description. Et en fait, il l'adapte et il la rend faisable assez facilement. Hein. C'est des cuisines, cuisines ultra
sophistiquées. En fait, il vulgarise.
C'est ça.
Voilà,
exactement.
C'est intéressant. On n'avait pas un livre, nous, les cookies et les Wookiees, ou des cookies pour les Wookiees, ou je sais plus quoi, ou un truc comme ça, qui mélangeait les cookies et les Star Wars, là. C'est pas lui qui avait fait un truc comme ça. Il y avait un truc aussi.
Je connais pas du tout, je peux pas dire.
Enfin voilà, voilà. En tout cas, intéressant que ce soit lui qui ait écrit ce bouquin.
Ah oui, complètement.
L'apérol, en plus, bah, évidemment, l'apéro, ça fait partie quand même de la culture gastronomique française. Donc ça s'inscrit complètement dans son univers, dans son... Et c'est bizarre,
ah oui, complètement.
Je trouve étrange que du coup les éditions Hachette n'aient pas mis plus en avant sa participation.
Bah
au,
oui, je
au
tombe...
Parce que tu vois,
début, hein,
moi je me suis, j'ai voulu me renseigner sur l'auteur du jeu évidemment et j'ai découvert le poteau rose à cette occasion. Alors la Pérole, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de rôle traditionnel, un jeu de rôle classique dans lequel on trouve des phrases mythiques du jeu de rôle classique comme par exemple l'EMJ a toujours raison, ce genre de truc. Le fameux truc avant le petit-déj est quasiment écrit là aussi, dans le, c'est-à-dire que le maître de jeu a le contrôle du décor, du monde,
cool.
Et les joueurs.
Bon, il y a un système, mais si vous n'en voulez pas, pas
ah,
top.
Eh ben non.
C'est pas
a,
ça,
par contre, non, il n'y a pas de règle d'or.
Oh,
dans,
trop
non,
bien.
Non, 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 il propose vraiment de jouer du jeu de rôle traditionnel sans. Non, non. Il propose après des extensions en fait de son système, des comment dire, une façon de prolonger l'aventure et l'expérience et le scénario qu'il a écrite. Ça c'est un fait, mais par contre il n'y a pas de règle d'or, le système est on va dire assumé, pleinement assumé, donc c'est vraiment une initiation au jeu de rôle dans la droite lignée de, par exemple de, d'un jeu qui s'appelle Sombre Zéro donc de Johan Sipion, donc qui est pareil, qui va se présenter un peu de la même manière d'ailleurs. J'ai des personnages là, voilà les personnages, vous voyez par exemple ce sont des sous-bocs. Alors, ils ont
oh,
la
super idée.
Ils ont la forme des sous-bocs. Alors ça, on trouve ça chez Johan Sipion aussi. C'est pour ça que je me permets de le préciser. Il y a quelques jeux de rôle comme ça, Gobelins qui s'en dédient, je crois. Et c'est des sous-bocs aussi. Il y a plein de. C'est quelque chose qui est assez commun maintenant dans le monde du jeu de rôle. Mais d'accord. La première fois que j'ai vu ça, moi personnellement, c'était chez Johan Sipion. Alors, peut-être que Johan Sipion l'avait vu ailleurs, mais voilà. Donc on a des personnages qui sont pré-tirés. On a Eldon John, un bar de gnome. Vous allez voir, ça donne l'ambiance directe. On a Vérité, une voleuse humaine. On a Eiri, donc un inventeur et forgeron nain. On a Fil d'Argent, qui est un sorcier humain. On a Bérénielle, qui est un garde forestier elfique, un elfe des bois. Et enfin, on a Ewilan Longlance, qui est un mercenaire humain. Donc voilà, les personnages sont pré-tirés. Ils ont des points de vie, ils ont des caractéristiques.
Je peux jouer à le dungeon.
Ils ont des... Ouais, t'inquiète. on va faire ça. Donc voilà, ils ont des caractéristiques, ils ont des backgrounds qui sont écrits sur le... Tout est clair en main, en fait. Et le système procède comme ça. Il y a trois types de choses qu'on peut faire. On peut se battre. Dans ce cas-là, on lance un des 10. Quand on veut se bastonner contre un truc, on prend un squelette. On dit, je veux me bastonner contre le squelette. On décrit comment on l'attaque. On lance le des 10. Le maître de jeu lance un des 10 en opposition. Si vous faites plus, vous gagnez sur le squelette. Et donc, vous lui faites perdre un point de vie. Si vous faites moins que ce que le maître de jeu a fait, c'est vous qui perdez un point de vie. Donc, c'est hyper
facile.
Simple.
Ah oui, voilà. C'est vraiment...
Le jet, y a, après,
est-ce qu'on peut s'entraider?
Non. Non, j'ai l'impression que c'est au tour par tour, c'est chacun okay. Votre tour, c'est vraiment à la FF7, voilà.
Et les potions de soins, c'est des shots ou pas?
Les potions de soins, j'ai pas vu de potions de soins, mais je sais qu'il y a un personnage qui peut soigner, donc celui qui l'aura pourra regarder, celui ou celle qui aura le personnage pourra regarder. Je vais revérifier tout ça, les règles tiennent sur un tout petit livret, qui est un livret carré, qui est de la taille d'un sous-boc en fait. Il y a très très peu de pages, sauf pour le scénario, qui est un petit peu plus volumineux, où il y a... Il y a 50 pages, tu vois, un truc comme ça. Et les règles, elles tiennent en 25 pages, un truc comme ça. Donc c'est très très simple. C'est vraiment très basique. L'univers, c'est de l'heroic fantasy.
Et puis c'est 25 pages taille sous-boc.
Oui, c'est ça.
Oui, 25 pages taille sous-boc. Alors,
A4, quoi.
Un truc éditorial que j'ai trouvé insupportable quand j'ai lu le truc, c'est que les premières pages sont écrites en penché. Alors là, moi, je sais pas lire ça. Hein. Ça, déjà, pour un dyslexique, c'est compliqué de lire un mot. Mais alors, un mot penché, il y avait, je me souviens comme ça, dans Rétro Futur, la base de Rétro Futur était écrite toute comme ça. Cette fois-ci, c'était pas que les premières pages, toute la base était écrite comme ça. C'était illisible. C'est
compliqué.
Moi, je pouvais pas la lire. Donc voilà. Mais donc, il y a quelques petits défauts comme ça que je trouve un peu étranges dans l'édition. Mais sinon, c'est très bien foutu, très bien édité, très simple d'accès. Donc voilà. Donc c'est ça qu'on va playtester aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions?
Moi, j'en ai une pour toi.
J'ai oublié un truc. Ouais. Vas-y.
Quand tu vois Apérol, tu te dis, on va faire le petit jeu à l'apéro comme ça. Est-ce que, pour toi, ce jeu-là, Enfin, pour moi, par exemple, c'est un jeu, je pense que je vais l'acheter en me disant super, je vais faire un jeu de rôle super rapidement avec les copains, je vais l'acheter, toc, on va dans un bar, on va pouvoir y jouer. Mais est-ce que, vu la taille quand même du carnet et tout, est-ce que c'est facilement jouable ou il faut quand même un temps nécessaire d'une à deux heures pour travailler le...
Alors, c'est compliqué. La première chose qu'il faut dire, c'est que les règles se lisent vraiment en 5 minutes. Ça, c'est évident.
Okay.
Quand on n'est pas dyslexique et qu'on arrive à lire des trucs en diagonale, enfin en penché, c'est possible. Donc, c'est vraiment, ça se lit très très facilement. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, et il n'y a rien d'original dans ce jeu de rôle. C'est-à-dire que ce n'est pas un jeu de rôle non classique, c'est un jeu de rôle classique. Donc, si toi-même, tu es MJ de jeux de rôle traditionnels type Donjons et Dragons, Appel de Cthulhu, etc., tu vas, entre guillemets, n'avoir aucune difficulté à prendre ça en main. Par contre, si ta question c'est est-ce que quelqu'un qui ne connaît pas le jeu de rôle peut acheter la pérole et jouer en tant que MJ le soir dans un bar, la réponse est non. Parce que du coup, je pense que ça va être un peu compliqué quelqu'un qui ne connaît, qui a jamais vu une vidéo YouTube sur les... Mais est-ce que ça existe, tu vois ? On peut se poser la question.
Ouais, oui,
quelqu'un qui achète la pérole, c'est quelqu'un qui s'intéresse un minimum au jeu de rôle. Il y a de fortes chances pour qu'il ait déjà vu 2-3 trucs.
Donc c'est pas de l'initiation. Ouais.
Alors si, c'est de l'initiation, mais plutôt pour les joueurs que pour le meneur. Le meneur, il va pas s'initier au jeu de rôle. Enfin, quoique, c'est pas vrai. C'est-à-dire que, mais par contre, ça ne répond pas au cahier des charges de il achète et dans 5 minutes il joue.
Oui,
ça,
voilà,
c'est sûr.
Okay,
par contre, s'il achète ça par exemple en se disant tiens, demain je vais faire une soirée avec des copains, je vais leur ramener l'apérole pour l'apéro, là ça le fait.
Okay.
C'est-à-dire qu'il a le temps de lire, il a le temps de débriefer, il a le temps de comprendre ce dont il s'agit, éventuellement de se renseigner sur ce que c'est que le jeu de rôle, et donc du coup il peut s'en sortir.
Okay.
Ça c'est clair. Voilà. Ce que je voulais dire, sinon, c'est que beaucoup d'éléments sont sur les feuilles de personnages. Donc du coup, pour le MJ, c'est aussi une charge de travail en moins. Il n'a pas à expliquer aux joueurs les règles qui concernent leur personnage puisque elles vont toutes figurer sur la feuille. Donc
oui,
chacun
donc ça,
est maître du jeu de son personnage, si j'ose dire. Hein, voilà. Donc et par ailleurs, le scénario est clé en main. Un peu comme Vademecum, si tu veux, où dans Vademecum, tu prends le livre, tu le lis aux joueurs, tu mets en place ce qu'il y a écrit dans le truc, tu joues. Là, c'est pareil. Là, il y a des trucs, un truc que je trouve très bien fait, c'est que dans le scénario du maître de jeu, tu as des éléments qui sont soulignés en bleu. Je te le montre là, Valentin.
Ouais,
c'est
je vois bien.
Pas du tout podcastique, mais tu vois, il y a des encadrés bleus et des encadrés jaunes. Les encadrés bleus, c'est des trucs que tu dois lire à haute voix aux joueurs.
Ok, ouais.
Donc, la seule condition pour pouvoir bien maîtriser le scénario, a priori, c'est de savoir lire.
Alors, parce que là, pour l'instant, ça va.
Donc, c'est pas mal quand même. Donc, le pari tenu, j'ai envie de dire, de ce côté-là. Mais on va le tester, justement, on va voir ce que ça donne, Fabi.
T'as dit qu'on pouvait attaquer, donc, mais on peut faire, se battre, mais on peut faire quoi autrement ?
Alors, il y a un autre jet de dés qui est possible. C'est celui... Merci beaucoup, Flavie, tu me permets de corriger, parce que j'ai failli oublier le deuxième jet de dés. Le deuxième jet de dés qui est très important. Attention. On arrive au cœur du système de jeu de la pérole, hein, puisque le deuxième jet de dés, c'est un lancer donc, d'un dé 6, et donc on a deux types de jets qu'on peut faire, de l'investigation, c'est-à-dire quand on se pose une question sur un lieu, quand on cherche à quelque chose de particulier, et la vigilance, qui est là par contre le fait d'être attentif. La vigilance, c'est plutôt un jet qui va être demandé par le meneur de jeu, alors que l'investigation, ça va être plutôt un jet qui va être à l'initiative de la joueuse ou du joueur. Pour trouver des éléments. Flavie, tu voulais ajouter un truc ?
Si je veux draguer un des persos de la table.
Alors, ça.
Est-ce que c'est faisable ? Pour qu'il prenne
oui,
les dégâts à ma place.
C'est tout à fait faisable. C'est tout à fait faisable. C'est juste que ce n'est pas pris en compte par le système de résolution.
Ok, donc je le ferai.
Donc
pas.
Là, il faut.
Vous êtes libre.
C'est là qu'il faut bricoler. C'est ce qu'il dit. Il faut bricoler, il faut improviser, etc. Bienvenue dans le jeu de rôle traditionnel, Flavie. Hein. C'est du tradit. Donc voilà. Donc, il y a un dernier dé qui est le dé 20.
Je peux te demander un jet d'investigation entre joueurs. Et si j'investigue le fait que l'un d'entre vous commence à me regarder un peu bizarre ?
Non. Non, 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 non. Bah, après, je suis désolé, Flavie, c'est peut-être très intéressant, mais le MJ a toujours raison. C'est moi le MJ, donc non, je te laisserai pas faire ça. Voilà, non, mais on va appliquer
les
règles.
C'est marqué dans la règle.
Ah oui, c'est dans la règle. C'est dans la règle, c'est écrit, le MJ a toujours raison. Moi, j'ai toujours raison. Donc voilà, c'est une très bonne idée, hein, Favi, il n'y a aucun problème. Mais bon, là, ce soir, c'est moi le chef.
Et du coup, comme on est dans le classique, si je te promets une bouteille de bière et des beaucoup, chips en plus. Ouais, je sais, mais tu vas voir. Je te promets des chips, des bonbons et une bouteille de bière. Espèce de gros connard de MJ.
Ok, t'as pas besoin de lancer le dé. Par contre, tu me retires tout de suite, espèce de gros canard de MJ, parce que
oh,
sinon,
MJ, sinon je te fais 3 points de vie. Oh, MJ, toi qui fais mon tout bonheur sur Terre.
Oh, toi, tout puissant, oh, fais-nous dessus. Donc voilà, oui, non, alors donc, voilà. Donc, en gros, on a investigation, vigilance, combat, et pour le reste, c'est le MJ qui a toujours raison, mais il faut bricoler. Donc, effectivement, ce que tu viens de proposer, Flavie, pourquoi pas. Si tu veux draguer, faire un jet, tu peux faire un jet en opposition avec un D6, par exemple. Sachant que. Donc, ça, c'est pas
j'ai juste retenu, on peut bricoler.
Voilà, on peut bricoler.
Dungeon va beaucoup bricoler. Voilà.
Ah, bah, de toute façon, tu vas voir, il y a quand même des bonus et tout. Tu vois, il y a des personnages qui ont des bonus, qui ont des objets. Enfin, vous allez découvrir ça en lisant vos feuilles. Voilà, donc vous voyez, c'était vraiment très, très compliqué. Voilà. Vous avez d'autres questions peut-être? Est-ce que vous avez des questions?
Non. Bah, tu n'as pas précisé qu'il y avait quand même le petit cache pour lancer.
Oui, un petit écran, effectivement. Tu as des aides de jeu aussi sous la forme de petits papiers, de petits dépliants. Tu peux montrer, tu vois, bah là, vous êtes face à ça. Ou tu vois, tu peux montrer.
Ah oui,
des
oui,
tu
as quand même un peu.
Ouais, tu les...
C'est cool.
Ouais, voilà, pour se représenter. Exactement. Donc, je les ai photocopiés en plus pour pouvoir donner les aides de jeu parce que j'ai bien fait ça.
Quel formidable MJ.
Ah ouais, je suis incroyable. Tu vas voir.
Je suis génial.
Et je vais même te mettre de la musique d'ambiance parce qu'on a la chance ce soir d'être à l'apéro. Mais
François, MJ, il est trop lèche cul du MJ. C'est moi qui ai commencé.
Ouais, moi, j'ai plus 3 points de vie.
Voilà. Donc, ouais, parce qu'on a la
tu
chance de la cellule ce soir. Il y avait, tu vois, il y a la bourgeoisie, puis il y a la cellule. Quoi. C'est le niveau au-dessus. Alors, nous, ce soir, on va jouer avec de la musique. Parce que c'est ce que je conseille. Si vous avez la chance d'avoir un endroit cosy pour jouer, que vous n'êtes pas dans un bar, GastronoGeek nous dit qu'on peut mettre un petit peu de musique d'ambiance pour essayer de mettre.
Ah, il n'y a pas des morceaux, non? Peut-être les droits d'auteur bloquent. Il n'y a pas de conseils.
Non, ils conseillent juste de mettre des petites musiques dont on a l'habitude. Oh,
okay.
Ou, voilà. Il dit qu'il y a plein de playlists sur le net pour faire ça, et effectivement, donc je vais prendre une playlist et puis go. Ok, ça vous va? C'est bon?
Carrément.
C'est simple.
Prête à jouer, j'ai presque fini mon verre.
T'es en retard.
Oh François, j'en ai une deuxième.
On lance une intro. Coca 21, putain.
Allez. C'est une idée, quoi. Vas-y, prenez les micros, c'est bon.
Voilà. Oh, Scotty, voilà.
J'ai déjà plusieurs.
Alors attendez, je vais quand même vous lire la fin de la partie.
Ah,
parce
oui.
Scotty, tu me manques.
Lise la fin. on a fini la campagne. On a fini la campagne. Donc,
ouais, à peine.
Si, on a fait. Écoute, on a joué le jeu By the Book, on a fini la campagne. Finalement, c'est pas un one shot, finalement, c'est campagne en fait qui devrait s'appeler ce podcast. Alors, les aventuriers sont morts au combat. Est-ce qu'on peut considérer qu'on est mort? Non. J'ai abandonné en fait.
Si on avait laissé la partie, je serais vite mort.
Bon, alors,
tu
on va
serais
dire...
mort, toi, et du coup, tu serais revenu en fantôme et tu aurais eu un D20, ouais. Ça aurait été long.
C'est
pénible,
un sacrifice en fait
mais
que j'aurais fait.
On aurait réussi.
Alors, il est écrit pour la suite du combat, poursuivez le combat normalement. Si vous voulez ajouter de la narration, alternez des phases de vol du dragon pour permettre aux aventuriers possédant des armes à distance d'être dans leur rôle. Et les phases au sol pour les combattants à l'épée et au marteau. Et j'aime bien la précision, enjoy. Enjoy, c'est écrit enjoy. Donc, les aventuriers, on va imaginer qu'on a fini ce combat. On va imaginer... Non mais prends ton micro, on t'entend pas.
On est là, on s'amuse.
On s'amuse. Donc,
on s'amuse. On lui
entre
fait
deux citations
par...
de Twilight.
On lui fait un par jet de dés. Si on le réussit, il a 40 PV. Ouais.
Et si tu réussis.
Si tu réussis.
Ça veut dire que pour donc il a pas 40 PV.
Il a
d'abord 10 PV, puis 20 PV.
C'est vrai.
Ce qui fait qu'il faut réussir, pour réussir 30 jets.
Ça y est, on a perdu. Valentin, il est pas bien.
Explique-moi.
Mes avis en question.
Qu'est-ce qui se passe?
Tous les choix qui l'ont conduit ici.
Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi? Tu t'amuses pas là?
Je me souviens un soir à Carte Magique dans la boutique Sortilège voir ce jeu.
Et te dire chouette, je vais l'acheter pour
Marie. J'aurais dû me méfier du mec avec un sceptre à côté comme ça menaçant en me disant tu vas t'amuser. Amuse-toi, achète-le, amuse-toi. Sinon quoi? Je te tue. Dans tous les cas, je suis mort.
Bon, alors peut-être quand même, on va quand même. Alors, comment on débrief en fait un jeu comme ça? C'est très compliqué. Déjà, je peux vous raconter ce qui se passe quand vous êtes victorieux. D'abord, non, mais j'aimerais vraiment qu'on lise un paragraphe de ce jeu calmement.
Mais ça va durer une heure de lire un paragraphe.
Donc, lorsque vous avez percé la peau du dragon garde pour la dernière. Oh non, j'ai la ferme.
Je vais le faire parce que faut quand même que les auditeurs comprennent que on a fini. Je veux dire qu'il y avait que des trucs comme ça à lire.
Dans Astérix et Obélix.
Romaric, il a vraiment essayé
t'as
de lire.
T'as la maison qui rend fou, tu sais.
Et en fait, il est en train de tout casser.
C'est le jeu qui rend fou.
Et je trouve même pas le. Tiens,
c'est. Alors, c'est vous allez vivre ce que Romain a fait. Il a continué à lire des paragraphes pendant que nous on en avait plus rien à battre. Lorsque vous avez percé la peau du dragon garde pour la dernière fois, il s'est effondré sur le sol dans un bruit sourd, sa masse terrible faisant trembler le sol sans comprendre comment la flamme gigantesque qui partait du sol s'est éteinte et les murs de la forteresse se sont mis à se fissurer et à tomber en morceaux. Le vieil homme qui l'évitait est maintenant au sol et tente de se relever. Vous venez de sauver Mordecai le sage, l'un des
c'est lui,
sorciers
le vieux.
Du royaume. Il est temps de le ramener à la cour.
Oh, c'est lui le vieux Mordecai.
Choisissez l'un des aventuriers et adressez-vous à lui spécifiquement. Toi, avec le chien, squelettou.
Mais lâche mes pompes, scottiche, putain.
Il ne reste plus rien des corps de tes compagnons. Tous ont rencontré leur créateur de la manière la plus atroce qui soit. Mais non, on a encore envie.
Ah merde, vous êtes tous morts,
qui,
putain.
En succombant sous les flammes du dragon, qui, en finissant broyé par ses crocs gigantesques. Tu es le dernier survivant de la communauté envoyé aux confins du royaume par le roi Findas et tu sais que tu vis tes dernières secondes. Étendu sur le sol, tu sens ruisseler le long de tes doigts un liquide froid et visqueux.
Attends, mais c'est si tu perds ça.
Et les aventuriers sont morts au combat.
Ah oui, voilà, c'est ça.
Attends,
non, parce que nous, on a gagné.
Putain,
hein.
On a gagné puisqu'on a abandonné.
Ah, ça m'arrange parce que
tu
là,
as abandonné.
Les aventuriers sont morts au combat, c'était le double du paragraphe que j'ai lu pour quand ils sont victorieux.
On a tous écouté. Alors,
à l'aventure, compagnon, merci et bravo, vos aventuriers vous-même avez expérimenté l'apérole, le dragon de foudre ciel. J'espère que cela vous a plu. Vous en voulez encore? Alors écoutez bien, vous savez maintenant comment écrire et orienter une histoire pour vos aventuriers. Pourquoi, avant le combat final, ne pas les plonger dans un dédale d'énigmes et de combats souterrains sous le cimetière avant d'arriver dans la cour du château de foudre ciel?
Bonne idée.
Pourquoi ne pas permettre à certains personnages de charmer les dragonnets pour pouvoir les contrôler par la musique et par la magie? Ça n'a pas été accepté pendant le scénar. Pourquoi déplacer la scène de combat final en haut du donjon en ajoutant quelques salles à énigmes et à bagarres bien senties? Comme ça, on pourra faire durer ça plus longtemps. En ajoutant cette deuxième partie, nul doute que vous ajouterez aussi à 1h30 de jeu à vos aventures. Merci de m'en jouer.
Alors, bon, et on va faire ce débrief, on va essayer de se calmer un peu. Bon, premier élément, il faut le dire, la vérité, on s'est bien marré.
Oui, c'est très très drôle.
Voilà,
ah
on
oui,
s'est
là,
bien marré.
Bonne marade.
Mais est-ce qu'on a ri grâce au jeu ou est-ce qu'on a ri de lui?
Moi, j'ai surtout ri grâce à Valentin qui a fait en imitant Twilight.
Alors, vous aviez fait un petit bingo. On avait fait un petit bingo de qu'est-ce qu'on allait trouver dans la partie. Donc Valentin, t'avais mis quoi? T'avais mis qu'on allait trouver quoi?
Ah, je me suis trompé. J'avais mis quelqu'un qui a disparu.
Ah, pas loin parce qu'il y avait Mordecai qui avait disparu finalement. Donc tu peux cocher.
J'ai bon.
Ouais. D'ailleurs, il y a des gens qui avaient disparu au début. C'était dit dans la narration, les gens ont disparu. Si
on
si.
D'accord. Ah oui, donc c'est bon. Ouais, ouais,
c'est
okay.
Juste que t'as pas écouté.
Ouais, on a pas écouté
mais...
les paroles.
Pourquoi il y a tellement peu de texte?
Mais c'était une dissertation, toi.
Non, c'est arrêté à la marmite qui cuisait dans la cuisine.
C'est ça. Ah ouais, vous êtes arrêté à la marmite. Après, vous avez plus jamais écouté les textes que je vous ai narrés.
Bah, Valentin, il disait un peu trop de trucs.
Pas trop, c'est vrai.
D'accord, ok.
On a beaucoup ri, mais pendant que tu masterisais.
Faut dire d'accord. Que Flavie chantait en même temps.
Ok.
Ouais, mais c'est mon personnage.
C'est ton personnage. On va en parler après. Valentin, donc vas-y, continue ton bingo.
J'ai mis passage à une taverne, dans une taverne.
Bravo, il y avait. Bien joué, bravo.
Et alors j'ai mis commence dans un village, mais passage dans un village, mais.
Le village abandonné.
Le village abandonné.
Ça va, très bien.
Après c'était 3, donc j'avais pas rajouté.
Très bien.
Mais
pas mal. Donc, ouais, donc du coup, sur le bingo du scénario de jeu de rôle d'initiation, t'as quand même eu 3 sur 3. Flavie, t'avais mis quoi?
Alors moi, j'avais mis 4 trucs.
Ok, vas-y.
Avant que tu dises qu'il y avait que 3.
C'est pas grave, 4, ce sera 4 sur 4.
Le commanditaire et le méchant.
Ah, et ben pour une fois, c'est pas le cas. Alors ça, c'est une originalité de ce scénario quand même, il faut le souligner.
Voilà. On va combattre un troll. Je suis un peu déçue.
Non, on n'a pas combattu un troll. Ouais, c'était des dragons et des squelettes.
On passe dans une forêt maléfique et hantée. Là,
ça, tu coches, très bien.
Et on doit ramener un trésor. Bah, on l'a vu, mais on l'a pas eu.
Voilà, donc 1 sur 4, on va dire. Parce que c'est pas vraiment ramener un trésor, c'était pas la mission, tu vois. C'était d'éliminer un vilain dans sa tour, dans son donjon. Le bingo du jeu de rôle traditionnel, ma chère Géraldine, t'avais mis quoi ?
Moi, j'avais marqué chercher un trésor.
Chercher un trésor.
Donc c'était pas bon.
Bah, ça dépend. Mais non.
Mais non. J'avais marqué se battre contre des mages maléfiques.
T'aurais mis trouver un trésor, t'aurais eu bon.
Bah j'ai marqué trouver un trésor.
Ah t'as mis trouver un trésor, ok. Bah, donc là parce que ça c'est bon. T'avais mis quoi d'autre, vas-y.
Se battre contre des mages maléfiques.
On peut pas être plus près de la vérité.
Toi qui l'as écrit, c'est pas possible.
Génial, c'est génial. Ok, donc t'es quand même pas mal. Et le dernier ?
Se perdre dans une forêt.
Putain, mais c'est pas mal, hein, quand
franchement,
même.
C'est pas mal du tout.
On s'est pas perdu dans la forêt, du coup.
Mais t'as
c'est
3
pour ça
sur
que
3.
J'ai demandé si.
On a perdu notre raison dans la forêt.
Oh, crois-moi, on aurait pu s'y perdre, hein, avec ce qu'avait prévu Romaric.
J'avais rien prévu du tout, je n'ai fait que suivre le
on
scénario.
Y a une centaine de cases à cocher.
J'ai pas coché. Donc non mais il y avait une centaine de mais c'est... ah oui ce que j'avais prévu tu veux dire ah oui mais on va en parler
ah oui,
on va débriefer calmement je te jure à un moment donné ce podcast
je va faire un débrief plus calme que la partie
donc François toi t'avais quoi
moi j'avais fait apparition d'un dragon
Bingo.
Départ de l'aventure à la taverne.
Bingo.
Et après prince ou princesse en danger.
Ah. Et non, ça c'est les contes de fées, c'est pas le jeu de rôle. Le jeu de rôle c'est moins intéressant que les contes de fées. Alors donc ça c'est un premier élément qu'on peut dire sur le scénario d'entrée de jeu. Et c'est pour ça que je vous ai fait faire ce bingo. C'est que c'est vraiment le scénario ras des pâquerettes du jeu de rôle. Hein. On va pas. Voilà, c'est. Effectivement, on commence à la taverne, on traverse une grande forêt noire et on va abattre des dragons et mettre des dragons avec des PNJ qui savent dire qu'une seule chose, c'est pour le chaos. Voilà. Bon, donc voilà, on est sur du grand scénario de jeu de rôle, évidemment. C'est une initiation, donc évidemment, les gens, on les prend pour des cons. Donc, ça c'est évident. Ensuite, donc, Non mais, ça pose quand même question. Tu fais une initiation au jeu de rôle. T'as envie de montrer que le jeu de rôle, c'est quelque chose de bien, ou t'as envie de montrer que c'est caricatural.
Est-ce que tu veux pas partir sur du cliché un petit peu pour une première ? Est-ce que c'est pas rassurant pour de nouveaux joueurs de commencer avec des codes qu'ils connaissent, même sans avoir jamais joué ?
Eh ben, c'est une très bonne question. Et je te remercie de la poser.
Je t'en prie.
Je ne sais pas. Est-ce que l'objectif d'une initiation de jeu de rôle, si tu veux faire découvrir un média, c'est effectivement de commencer par des poncifs et donc de dire on va faire du jeu de rôle vraiment traditionnel avec la taverne machin de façon à transmettre des espèces de codes? Ou alors au contraire, est-ce que l'intérêt d'une initiation de jeu de rôle, c'est d'essayer de montrer que le jeu de rôle ça peut... Et ça c'est un débat, tu vois, c'est un débat très bien relevé parfois.
Moi, je vois, dans la musique, Valentin. Tu veux apprendre la musique, pas la guitare? Tu vas pas dire, tu vas commencer par apprendre un morceau qui te plaît, tu vas pas dire, bon, on va faire du solfège pendant 10 heures de temps, enfin là pour le coup 3 heures. Alors prendre un cliché comme ça avec un système de jeu archi caricatural où c'est juste avoir de la chance, c'est quand même très frustrant quoi.
Alors ce que vous entendez, chers auditeurs, auditrices, c'est le soufflet de Flavie sur le feu. De l'auberge. C'est très intéressant. C'est une expérience, hein. C'est une expérience intéressante.
Alors, après, au niveau du système de jeu, je suis d'accord, mais au niveau de l'histoire, c'est rassurant, je trouve, d'avoir des codes très établis. Pour une première, en tout cas.
Alors, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'autour de la table, pour les gens qui connaissaient le jeu de rôle comme pour les gens qui ne le connaissaient pas, ça a généré de l'humour. Ça a créé aussi une espèce de truc de. Voilà.
On a tous trouvé des références.
Il faut dire que les personnages qu'on a sont un peu farfelus dans les descriptions, donc ça t'aide à.
En fait, ça met en place un système de connivence. Ce qui est pas si mal en fait.
2 à 2.
Parce que le système de connivence, en plus c'est dit plusieurs fois dans la base, d'après ce que j'ai compris, faut s'amuser. Avec le système de connivence, ça va être plus simple d'amener des blagues, etc. Comme c'est censé être joué à l'apéro. Ça pour le coup, ça me choque pas en fait. C'est comme quand je fais un Cthulhu, je sais ce que je vais jouer. Enfin, à un moment, quand tu fais un truc qui s'appelle le château de foudre ciel avec un dragon sur la couverture, je m'attendais pas à un truc qui pète 3 pattes à un canard.
D'accord.
Honnêtement, le système de connivence me dérange pas. J'ai plus de questionnements sur le système de jeu. Je pense qu'on va en ramener en fait les personnages jouent beaucoup sur ce système de connivence. Notamment, moi, bon, c'était le plus caricatural, mais...
Alors, c'était quoi ton personnage ?
Mon personnage, c'était une sorte de Farfadet, pour ceux qui ont vu Agone, qu'on lu Agone, le Farfadet des villes.
Le barde, en fait.
Le barde qui détrousse les gens, un méga pickpocket. Et en fait, il a un super pouvoir, une fois par partie, il peut faire le chant des merveilles, et quand il fait ça, du coup, il chante, et il donne soit plus 2 au jet des autres joueurs, soit plus 2 points de vie en cas de blessure.
Ouais.
Il a des choses par contre qui sont précisées à côté, alors qui sont assez claires pour certaines. Le flutio sarbacane, t'as la flûte et c'est une sarbacane. La bourse sans fond, bon Hermione coucou. La lyre arbalète, c'est une lyre et c'est une arbalète. Les lunettes de la lune, par contre, il n'y a rien qui est prévu, donc moi j'ai beaucoup brodé dessus. Ça, pourquoi pas, moi sur mon personnage, il y avait marqué en gros... En gros, que si je voulais le jouer, il ne fallait jamais arrêter de chanter ou de rimer.
Intéressant. Donc, en fait, tu as joué By the Book.
J'ai joué By the Book. C'est pour ça que j'ai passé ma partie à chanter, en fait. Si vous voulez vraiment interpréter Elden John au mieux de sa forme, tournez vos compagnons d'hérison, chantez leur louange et leur mauvaise aventure. Ouais. Ils ne cessent jamais de chanter et de rimer. C'est pour ça, moi, j'ai fait ça. Okay. J'étais un peu pénible.
Oui, parce que par contre, pour le MJ, c'est super pénible. Oui. Parce que du coup, moi, quand j'essaye d'imposer... Enfin, alors, déjà, premièrement, on s'est mis bien. C'est-à-dire que j'ai fait les photocopies des aides de jeu. J'ai mis une musique d'ambiance plutôt dark.
Absolument pas entendue.
Qu'on n'a pas entendue, mais qui était quand même là. Au début, elle était là. Elle a mis de l'ambiance. Mais j'ai lu tous les textes qu'on m'a demandé de lire. J'ai fait tout bien comme il fallait. J'y ai mis du cœur. J'ai mis du cœur à l'ouvrage. Vous ne pouvez pas dire le contraire.
Enfin, ça a été un super voilà.
Très clair. Ah ouais, très autoritaire en plus.
Ouais, nickel. Alors effectivement, Valentin fait une référence au fait que dans la base, c'est écrit que le MJ a toujours raison. Et donc, pour rigoler à plusieurs reprises, j'ai dit ça alors que je disais de la merde. Voilà, mais oui, effectivement, mais ça c'était pour vous faire rire, c'est pour te faire rire, bien sûr. Mais oui, effectivement, tu vois, j'ai vraiment voulu mettre l'ambiance. Je n'ai jamais réussi à le faire. Parce que quand je lisais, vous vous ennuyez ou que Flavie faisait du bazar avec son personnage. Voilà. Donc, ça c'est un premier élément, c'est que côté ambiance, alors que pourtant j'avais mis tous les trucs de mon côté.
Le niveau solaire, j'ai l'impression qu'on n'a pas. Enfin, c'était. 50 décibels au-dessus, en fait. Quand tu lisais, t'es obligé de brailler.
Pour le coup, on était vraiment à l'apérole.
On
n'a jamais quitté la taverne.
On a été indisciplinés, mais voilà, on était dans le jeu, nous.
Oui, c'est ça.
Nous, quand t'annonçais que la marmite était tombée au sol, on a été dévastés.
Ouais, alors, moi,
le pauvre ragoût, quoi.
Moi, alors, le vrai questionnement, alors, on reparlera du système. Le premier questionnement que moi j'ai sur ce jeu, c'est la place du MJ, en fait. En fait, je pense que souvent on dit dans le classique c'est le MJ qui s'amuse et les joueurs qui s'emmerdent, et je pense qu'à ce jeu là on a trouvé le contre-exemple, c'est à dire que là c'est les joueurs qui s'amusent et le MJ qui s'emmerde, sauf que le MJ c'est un joueur comme les autres en fait. En plus c'est lui qui prépare la partie, et donc en fait il doit lire By the Book, il doit juste lancer des dés en réaction au jet de dés des joueurs autour, donc en fait il n'a aucune agentivité à part le fait de jouer les personnages qui font « Ah, le chaos !» Et du coup, ça me pose vraiment question sur la place du MJ. En fait, c'est un jeu où le MJ s'emmerde. Et moi, j'avais jamais vu ça, en fait.
Ouais, c'est vraiment un jeu où le MJ s'emmerde. Ça, je dis tout de suite, c'est-à-dire que si tu joues By the Book, donc t'as rien à faire pendant les combats, parce qu'en fait, c'est en fonction... T'as des jets d'opposition à faire, tu peux décrire tes méchants et tout, mais t'as pas grand-chose. C'est en fonction des jets de dés des joueurs, en fait, que les dégâts sont distribués. Alors... c'est des jets d'opposition, donc je pourrais profiter de mon lancer de dés pour vous opposer des choses. Mais même, par exemple, qu'est-ce que c'est l'opposition à la vigilance, par exemple ? C'est, par exemple, est-ce que c'est les choses mises en place par les méchants pour échapper à vos aptitudes en observation ou analyse, je sais pas comment dire, à quoi ça correspond ce jet, je sais pas. Le fait de lire des textes aussi, bah c'est bien gentil, c'est super bien, ça, c'est du coup comment dire, on est guidé, ça c'est clair, on a rien à inventer, à créer, mais en même temps bah on n'arrive pas à s'imposer. Moi j'arrivais à aucun moment, je suis pas un, même si j'ai essayé d'être un narrateur et tout ça, je ne pouvais pas m'imposer face à quatre joueurs qui ont envie de discuter et de jouer entre eux, ce qui est bien normal. Donc ça, c'était très compliqué.
Ouais, et puis en fait, on a déjà fait des jeux de rôle où on peut lire en fait les réponses aux joueurs, etc. Mais souvent, dans les parties, dans ce type de jeu, en fait, dans les parties, des moments en fait où il va y avoir des combats ou des choses à résoudre, etc. Le MJ a beaucoup de choses à faire. Donc en fait, souvent, en fait, on met en place ce type de choses dans les jeux de rôle pour soulager le MJ, parce que du coup, il va avoir beaucoup de choses à gérer à côté. Donc, pour éviter qu'il ait à réfléchir, en fait, à ce qu'il va avoir à faire, on lui met des choses à lire. Sauf que là, en fait, il n'a rien à faire à côté. Donc, on le soulage d'un poids, alors que c'est le moment où le MJ, il aurait pu s'amuser, en fait. Donc, c'est un peu dommage.
Après, je me suis beaucoup amusé quand même, malgré tout. En fait, je me suis amusé à vous amuser, en fait. C'était ça, mon rôle de MJ et d'animateur. J'étais là pour faire le guignol, justement, profiter. En fait, j'ai joué à ce jeu comme on joue à Cthulhu, en me moquant en fait du jeu de rôle traditionnel et du jeu de rôle classique. Là, c'est ce qu'on a fait pendant la partie. C'est ça qu'on a fait. Et donc, après, il reste la question de savoir, la question qu'on posait avec François au début, c'est qu'est-ce que c'est la meilleure initiation au jeu de rôle ? Est-ce que c'est faire une partie caricaturale comme ça où tout le monde se marre et du coup les gens gardent une image du jeu de rôle où en gros on se marre comme des gros benets autour d'une table ? Ou est-ce que c'est justement une expérience très immersive, etc. ? Qu'est-ce qui donnera le plus une bonne image du jeu de rôle ? Et puis même, quel est l'objectif d'une boîte comme ça ? Est-ce que c'est de donner une bonne image du jeu de rôle, est-ce que c'est de montrer que le jeu de rôle c'est un média ou est-ce que c'est de montrer que le jeu de rôle c'est un loisir ?
Je crois qu'ils se posent pas la question d'une boîte comme ça. En fait, c'est juste tu vas pour eux. Je pense que tu vas jouer à l'apéro et tu vas découvrir un peu ce que c'est le jeu de rôle. Il y a pas de. Alors moi j'ai pas lu. Est-ce qu'il y a des dans le texte ? Est-ce qu'il y a des moments en fait où ils précisent ce que c'est le jeu de rôle ? Etc.
Alors oui,
en fait,
au début du texte pour le réserver au MJ, il t'explique en fait que le jeu de rôle c'est le jeu de rôle classique. Donc voilà, MJ, des joueurs, enfin, tac, tac, tac. Ah oui, alors après, la partie où il parle du jeu de rôle, c'est aussi la partie qui est en italique, donc j'ai du mal à lire. Voilà, mais il parle de Donjons et Dragons, de Gargillax. L'essence du jeu de rôle, c'est que c'est une expérience de groupe, une expérience de coopération, ni victoire ni défaite, mais la valeur est dans l'expérience consistant à vous imaginer dans la peau d'un personnage, dans le genre fictionnel que vous pratiquez, quel qu'il soit, que ce soit un jeu de fantasy, d'agent secret ou quoi que ce soit d'autre. Ça vous permet d'une certaine façon de vivre tout cela par procuration. Donc en fait, il cite Gary Gygax pour décrire le jeu de rôle comme une activité où on vit des aventures à travers un personnage qui n'est pas nous. Est-ce que vous avez eu l'impression que c'est ce qu'on a fait ce soir ? Ça, c'est toute la question. Valentin, vas-y, tu voulais intervenir avant que je...
Ouais, mais là, je risque de changer un tout petit peu de sujet à ce moment-là.
Vas-y, change, et puis on va revenir, on reviendra après. On reviendra après.
C'était, en fait, est-ce que le... Tout à l'heure, je faisais une référence avec le joueur du grenier, là, tu te souviens, j'avais pris note.
Ah oui, ça c'est important. Ouais.
Alors, au final, bon, on a vu que c'était un problème de compréhension de règles, donc... Alors, par contre...
Oui et non, hein.
Ouais,
faut qu'on décrive là.
Par contre, là, pour rebondir à ce que tu disais justement juste avant là,
sur Gary Gygax,
est-ce que la stratégie marketing actuelle du jeu de rôle, est-ce qu'elle ressemble au jeu vidéo, on va dire, des fins 80, début 90, c'est-à-dire on te met une enveloppe de jeu vidéo avec une marque, un thème, un truc,
ouais,
avec une enveloppe de jeu vidéo en disant le jeu vidéo c'est génial, joue. Et en fait, la majorité des cas, c'était des grosses bouses avec un avec un jeu très comment on appelle ça, les jeux en 2D, voilà, c'est ça.
Infogramme.
Où au final, en fait, tu te retrouves à aspirer par un truc du jeu vidéo, tu vois, c'est bien. Au final, là tu te retrouves avec 90% de merde. Alors que le jeu de rôle à ton époque, il y avait peut-être 15 20 ans, ça devait être un jeu de niche où on va dire la plupart des jeux de rôle devaient être quand même de bonne qualité. Par rapport au nombre de boosts qu'il pouvait avoir à côté, non ? Enfin, tu vois ce que j'essaye de dire. En gros, est-ce que maintenant, avec la popularité du jeu de rôle qui arrive, il y a de plus en plus de jeux de rôle qui est vendu jeu de rôle, mais qui sont des grosses bouses, et qui risquent de perdre le public à se dire que ça vend de la merde, et avoir une difficulté de trouver vraiment les bons jeux
De toute façon, on sait que le jeu de rôle qui cartonne, c'est Donjons et Dragons. Il y a deux licences qui cartonnent dans le monde du jeu de rôle, c'est Donjons et Dragons et l'Appel de Cthulhu. Voilà, l'Appel de Cthulhu dans tous les domaines, s'il y a écrit Cthulhu sur la boîte, ça se vend. Tous les éditeurs de jeux de livres pourront vous le dire, s'il y a écrit Cthulhu sur la boîte, ça se vend, que ce soit un jeu de cartes, un jeu de société, un jeu de rôle, s'il y a écrit Cthulhu, ça va se vendre. Et de la même manière, dans le monde du jeu de rôle, c'est Donjons et Dragons, la boîte Afrique, donc voilà. Donc est-ce que on vend toujours le même type de jeu ? Mais oui, en fait, le jeu de rôle ne s'est pas changé, il est toujours le même. C'est toujours ce qu'on a fait ce soir, mais ça ressemble énormément à la pratique du jeu de rôle telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui massivement.
Okay,
c'est
okay.
Ça, le jeu de rôle tel qu'il est pratiqué. Et donc, voilà. Ça, donc ça, c'est... En cela, si l'objectif de cette boîte, c'est de montrer quelle est la pratique majoritaire du jeu de rôle, eh bien, cette boîte le fait très bien. Et là, encore une fois, il faut se poser la question. Est-ce que le jeu de rôle, c'est un loisir ou est-ce que c'est un média? Si c'est un loisir, alors dans ce cas, le fait de rire des poncifs comme on l'a fait, de célébrer en fait la taverne, la forêt, les morts-vivants, les elfes, les nains, et de continuer dans cette caricature-là, et d'en rire comme on l'a fait là à travers
un très réussi, là, pour ça, ouais.
Voilà, il y a quelque chose de fondamentalement réussi. Si l'objectif, c'est de montrer que le jeu de rôle est un loisir, c'est réussi. Maintenant, si l'objectif, c'est de montrer que le jeu de rôle est un média qui a des vertus. Par exemple, quand tu prends le joueur du grenier dans Aventure, quand oui. il présente le jeu de rôle, il oui. dit deux choses. Il dit d'abord ce qu'est le jeu de rôle, où il présente le fameux truc impossible avant le petit-déj, mais il dit aussi le jeu de rôle, c'est quelque chose de formidable. C'est quelque chose de formidable qui m'a permis de m'émanciper, qui m'a appris plein de choses, qui m'a appris à faire des choses avec les autres, etc. Dans ce cas-là, il vire et il passe en mode média quelque part, tu vois. Encore que du loisir, on peut passer au média. Mais on voit bien ici que l'objectif, c'est d'abord de montrer l'aspect loisir du jeu de rôle, le fait que ce soit un truc pour rigoler avec ses potes. Et maintenant, on peut quand même se poser la question, le système de jeu, et parler du système de jeu. Et moi, c'est ça le problème, c'est que... Enfin, qui veut décrire comment on joue à ce jeu?
Je veux bien.
Vas-y, Fly.
En gros, le MJ lit un paragraphe qui explique ce qui se passe, très long avec beaucoup, beaucoup de détails, qui
après,
ne sont
aussi,
pas forcément...
Ouais,
immersif. Est-ce que c'est vraiment immersif de savoir qu'il y a deux meufs dans la cuisine qui sont en train de touiller les marmites pendant qu'il y a le gars qui est au bar, et il y a une serveuse, merci d'ailleurs au passage pour le sexisme, et en fait, si je peux pas interagir avec lui, est-ce que c'est intéressant? Parce que moi, j'ai eu des problèmes comme ça pendant le scénar, des moments où, par exemple, Rome pose une aide de jeu avec deux personnes qui nous regardent au fond. Donc, j'y vais pour offrir...
Attention à vos micros, les filles.
Oui.
Tenez-les bien. Voilà.
Donc, j'y vais pour... ils ont l'air patibulaires. Moi, je suis un peu genre, oh, c'est cool, on va y aller. Je vais pour leur adresser la parole, ouais. et pour leur offrir des pintes.
Ouais.
Mais ce n'est pas prévu comme ça. Donc du coup là eh ben impossible d'interagir parce qu'en fait ils étaient pas là pour ça, ils étaient là pour crier chaos, chaos et détruire tout le monde.
Alors c'est pas ça, c'est que à partir du moment où ils sont détectés et où vous allez vers eux, ça déclenche le combat. Seulement ce qu'il faut savoir c'est que avant ça, je vous ai demandé qu'est-ce que vous faites et du coup là vous aviez l'occasion de discuter avec la serveuse, avec le serveur, de faire du roleplay, etc. Vous ne l'avez pas fait, vous avez foncé vers le combat, mais vous pouviez le faire. Et d'ailleurs dans la base il est prévu en fait des choses si vous parlez à la serveuse, si vous parlez au propriétaire de l'auberge, etc. Et donc pour chacun il y a des interactions possibles avec des trucs.
Okay.
Voilà. Après, ça apporte pas grand-chose. Hein. Ils disent que la forêt est dangereuse, qu'on y a vu des morts-vivants. Enfin, voilà, des trucs comme
aussi,
ça. Tu vois.
La discussion de PNJ, quoi.
La discussion.
Mais c'est
PNJ,
vrai que là, tu contredis un poil. Ce que j'allais dire, c'est que je trouve qu'en dehors des combats, on n'a pas grand-chose à faire, en fait. Tu vois, on a quand même des personnages qui ont des capacités rigolotes. Il y a un pickpocket. Voilà.
Je fais du crochet.
Ouais, voilà. Et je trouve qu'en fait, c'est des choses qu'on a utilisées à aucun moment. Par exemple,
il y a marqué que je suis un pickpocket, mais j'ai rien qui me permet de le jouer.
Mais c'est ça, il y a aucun moment où on a.
Vigilance ou combat.
Il y a aucun moment où on a un objet à voler, par exemple, au tavernier. Et où là, on peut mettre en place une stratégie un peu pourrie pour lui chourer, je sais pas moi, son pendentif de sa grand-mère. Et je trouve que c'est le petit reproche que j'ai à faire à ça, c'est l'image que moi je me fais du jeu de rôle, c'est au-delà de se battre contre des gobelins ou des morts-vivants. C'est d'aller chourer la cruche en cristal sur la commode du tavernier. Et il n'y a aucun moment où on a eu ces opportunités-là. On a eu trois interactions, c'est de se battre contre des mecs en capuche, se battre contre des dragons et après se battre contre Palpatine.
Et là, tu vois, c'est pour continuer. Du coup, après qu'il ait lu les paragraphes, généralement, il y a une scène qui se démarre. Et donc là, on doit faire des jets. Voilà, soit avec du D6, soit avec des D10 pour le combat, avec plus ou moins de bonus. Et une fois qu'on a notre résultat, en fait, le MJ lance un dé en retour, et s'il fait moins, on a gagné, s'il fait plus, on a perdu. Le vrai problème que je vois, moi,
t'as
c'est...
T'as perdu un point de vie, et si oui. tu perds un point de vie, et si tu gagnes, c'est moi qui perds un point de vie.
Voilà, sur le principe, c'est assez simple. Le problème, c'est qu'on n'a que investigation, vigilance et combat. À partir de là, ce ne sont que des choses pour le combat, quasiment.
Bah oui.
Même la vigilance, hein, je veux dire, l'investigation, super, on va chercher un peu, mais on va chercher quoi ? On est censé chercher des choses, mais ça ne nous permet pas d'entrer en interaction, de faire grand-chose. Donc du coup, Géraldine, qui était la reine du crime, bah, elle n'avait rien à faire. Parce qu'en plus, je suis désolée, mais ton personnage, en fait, il m'a fait cruellement penser à quand j'ai démarré le jeu de rôle. Comment ça faire maintenant ? En fait, le personnage féminin, c'était toujours une meuf. Sur le principe, ça allait être cool, mais il n'y avait rien sur sa fiche qui permettait de la jouer. Donc c'était juste une putain de cruche, quoi. Et là, vraiment... Désolée pour le gros mot. Et là, vraiment, ça m'a fait penser à ça. C'est-à-dire, c'est censé être la reine du crime. Et sur sa fiche, elle fait...
Du crochet.
Mais ça peut être pour crocheter les serrures.
Mais je crois que c'est des crochets pour crocheter les serrures, pas pour tricoter.
Non, regarde, elle a de tout. Elle peut écrocheter les serrures et faire du crochet. Pour moi, elle peut faire les deux.
Ah oui, ben du coup, c'est pas réducteur. Tu peux crocheter les serrures.
Peux crocheter des serrures qu'avec mon super pouvoir, en fait. Oui. Et du coup, une fois qu'il est utilisé.
Et à quel moment est-ce qu'on
c'est pété, effectivement.
À quel moment est-ce qu'on pouvait faire ça, puisque le seul moment dans le jeu où on doit ouvrir une porte, en fait, c'est un moment qui est scripté. Et où on a besoin d'un code.
Non, tu peux que quand on
ah oui,
a le
il y a le méga trésor. Le
ouais,
oui, mais le méga trésor, il est ouvrable que si tu réussis que si Eri réussit. Alors déjà, merci pour les tables où l'un des deux n'est pas pris.
Hein
c'est vrai que c'est un gros défi.
Il faut 2 dés.
Il faut 2 dés qui réussissent à suivre, sinon c'est raté. Donc en fait, votre super capacité, elle va servir une fois. Si vous avez de la chance.
Et un moment que tu n'as pas choisi.
Exactement. Donc c'est un peu ballot. En fait, du coup, on se retrouve à... Ouais, j'ai l'impression de jouer à un vieux jeu, tu vois, où pourrait faire plein de trucs super, mais on va le faire en dehors des règles. Du coup, qu'est-ce que ça donne quand tu le fais en dehors des règles ? Du coup, tu ne peux t'appuyer que sur la connivence qu'il y a autour de la table ou que sur un poncif à jouer. Là, on a joué autour de la table le poncif du jeu de rôle un peu caca où on va rigoler autour de la table pour compenser l'effet caca. Donc du coup, comme en plus, nous, autour de la table, on est un peu rigolard, eh ben, on s'est engouffré dans toutes les goûts, dans tout ce qu'on pouvait faire pour pouvoir rigoler. Et nous, ça, on sait très bien faire. Du coup, c'est devenu le chaos. Oui, en effet, mais c'était nous le chaos, en fait.
C'était vous le chaos, ouais. Donc tu vois, c'est exactement ce que disait Valentin tout à l'heure. En fait, Valentin nous disait finalement le jeu de rôle auquel on vient de jouer là, ça ressemble beaucoup aux vieux jeux vidéo dans lesquels t'avais un bouton pour taper et on te tapait et on te promettait de voyager, de faire des tas de trucs, de vivre une aventure. Et en fait, tout ce que tu faisais, c'était des combats, des pecs, etc. Il y a un autre truc aussi que t'as dit, Valentin, à un moment donné, c'est que on est un peu comme dans les joueurs, comme dans les jeux, pardon, que teste le joueur du grenier, dans la mesure où on n'arrête pas de rater ou de se prendre des coups. Alors oui. Peut-être qu'on explique le système de combat. Donc,
carrément.
Quand on arrive dans la forêt noire, donc déjà dans le bar, on nous dit il y a 4 encapuchonnés qui se battent. Moi, sur l'écran, il y a écrit les encapuchonnés 6 points de vie. Moi, j'avais compris, bêtement, que c'était chaque encapuchonné qui avait 6 points de vie. Donc, ça faisait que du coup, pour chaque encapuchonné, il y avait donc ces 12 points de vie.
C'était 12, hein, les acolytes.
Ouais, non.
Ouais, mais j'avais compté que, en fait, les acolytes étaient... Ah bah donc, j'ai raison, ouais. Donc j'ai eu raison. Donc j'avais
non,
raison.
Non, c'est 12 au total.
Au total.
Mais on avait compté 48, nous, en tout.
Ouais.
Ah oui, d'accord, ok. Bah, oui. Ah oui, moi, j'avais compté 12 pour chaque acolyte.
Oui.
Ouais. Oui, oui.
Ok,
oui, oui.
Donc ça, là, je me suis planté. Mais de toute façon, toi, t'en as endormi 2. Oui, donc au final, à la fin du fin, on en a fait 24.
Oui, c'est quand ça, regarde, ouais. Sur ta fiche. T'en as bien endormi 12. Enfin,
voilà.
Du coup,
donc
24 points.
Et là, le combat. Alors imaginez quand même infliger 24 points de dégâts à des adversaires. Alors là, je me suis planté. Je fais amende honorable. Mais déjà, même 12 points de vie.
C'est hyper long.
Je veux dire, déjà, faire 12 points de vie à des adversaires dans ce jeu, ça veut dire que...
Tu le fais un par un. Oui.
C'est ça. Oui. François, oui. Donc en plus,
ah, l'ordre, j'ai raté.
L'ordre des tours de jeu est imposé par les feuilles de perso. Donc là, on avait l'ordre suivant. François joue en premier, puis Géraldine, puis Valentin, puis Flavie. Qu'est-ce qui se passe concrètement ? François fait une description. Il lance un des 10. Moi, en opposition, je lance un des 10. Si le score de François est supérieur à mon lancer, il inflige un dégât. Si mon score est supérieur au sien, c'est moi qui lui inflige un dégât. Donc, autrement dit, dans chaque échange, on a quasiment une chance sur deux, mais un peu plus pour les autres, d'avoir un dégât. Ça veut dire que si on veut infliger 12 dégâts, il faut faire en moyenne 24, entre 20 et 24 tours.
Très clairement.
Et s'il y a ex-aequo, on n'a toujours pas compris ce qui se passe.
S'il y a ex-aequo, je sais pas. Je sais pas.
Très clairement, à ce moment-là du jeu, quand Flavie parlait de l'effet caca, c'est à ce moment-là que le caca a heurté le ventilateur.
En fait, le truc, c'est que à ce moment-là, déjà, on se dit, ok. Donc, en fait, on a fait ce combat de façon assez épique. On s'est bien marré quand même. On a réussi à tenir le truc. Mais ensuite est arrivée la forêt noire.
Non, ensuite est arrivé le truc, le moment où tu nous as perdu, en fait.
Vas-y.
La marmite.
Dans le paragraphe. Dans le paragraphe qui suit la bataille. Donc, ils décrivent. Dans le paragraphe, les gens qui sont morts, et juste après, il y a un très long passage, plus long que sur les gens qui sont morts, sur la marmite qui est renversée par terre. Et nous, juste, ça nous a perdu, on s'est mis à crier « Non, pas le ragoût !» Et là, c'était fichu, en fait,
c'est très drôle, parce que quand tu sais que c'est Gastronogeek qui a écrit le scénario, tu comprends pourquoi dans l'auberge, il y a monstre détail sur la cuisine,
ah,
pourquoi
oui.
C'est décrit en large, et pourquoi à la fin, alors qu'il y a des cadavres partout, on nous décrit cette marmite étalée, et là, on a envie de dire « Non, pas la marmite !» Il y a un côté vraiment incroyable.
Bon trait d'humour, pour le coup. Ouais.
C'est, bon, après, c'est très rigolo, effectivement. Mais c'est vrai que le paragraphe est quand même très long, c'est quand même un peu ennuyeux, faut le dire, mais bon, c'est très marrant. Et donc, du coup, on sort de la taverne, et là, on fonce vers la forêt noire, et là, je vois le tour de garde se faire. Je me fais, ok, déjà, le tour de garde, c'est long, les tensions sont longs, ok. Ensuite, on arrive au squelette, et là, je vois 10 squelettes, putain.
Il y a 10 squelettes
avec 4 points de vie.
Et 2 dragonnets.
Ça fait 40 points de vie et 12 trucs. Et là, je fais, non, il y a un problème, c'est pas possible. Parce que si c'est 40, ça veut dire qu'on va devoir faire 80 tours de jeu pour les battre. C'est juste invraisemblable.
On a failli abandonner le jeu.
Là, j'ai vérifié les trucs et là, j'ai compris. Mais encore une fois, c'est pas évident. J'ai compris qu'en fait, les squelettes, quand c'est écrit les squelettes 4 points de vie, ça veut pas dire que chaque squelette a 4 points de vie, mais qu'ils ont tous en tout 4 points de vie.
Le groupe.
Et là, il y a un problème d'affordance qui a été relevé, je sais plus qui l'a relevé pendant la partie, de dire mais pourquoi on t'a dit qu'il y en avait 10 ? Et c'est un vrai problème d'affordance. C'est toi, Flavie, qui a dit ça ?
Oui, parce en que... fait, c'est la... enfin, c'est quand on te dit, mais quand tu lis. Les machins ont, par exemple, les pirates ont 2 pièces d'or. T'as 2 façons de l'entendre. Soit ils ont 2 pièces d'or en tout, soit ils ont chacun 2 pièces d'or. Mais il est convenu, grammaticalement, que pour éviter ça, en fait, le mot chacun, il sert à ça. Ça a évité, en fait, ce problème, en fait. Donc, on rajoute souvent, les pirates ont 2 pièces d'or, chacun. C'est un problème de base de CE1.
En fait, là, le problème, si tu veux, Flavie, il est pas là. C'est que c'est des trucs qui sont simplifiés. Les dragonnets, 6 points de vie. Les morts-vivants, 4 points de vie sur la feuille. Sur l'écran du meneur de jeu. C'est comme ça qu'on connaît, en fait, comment on fait. Mais surtout, ce qui est intriguant, c'est qu'il a écrit 10. S'il avait mis 4, il n'y aurait pas eu d'ambiguïté. On se serait dit, ah bah oui, c'est normal. Premiers ennemis, 4 squelettes, 4 points de vie. Et du coup, c'était cohérent. Pareil, les acolytes, s'il y avait eu, par exemple,
oui, mais du coup, ça fait, enfin,
un acolyte ouais. avec 6 points de vie, on aurait compris, ok, un acolyte à 6 points de vie.
Ouais, mais moi, ça me paraissait bizarre parce que du coup, j'étais là, mais du coup, ils ont combien ? Ils auront 0, je sais pas combien de points de vie. Enfin, à un moment, ça a pas de sens. Enfin, oui, ça veut dire que quand on les attaque, en fait, on en dégomme plusieurs d'affilée. Mais que du coup, il y en a quand même 2 qui sont un peu chelous, ils sont dégommés. Enfin, c'est assez bizarre en fait. Pourquoi pas dans ces cas-là, 8, enfin, je sais pas, je poste 10, c'était 8, joli.
8, c'est bien parce que du coup, 4 points de vie, tu te dis, bah, chaque fois que je défonce un point de vie, je défonce 2 squelettes. Ça paraît logique. Donc en fait, là, tu vois, et ça, c'est un vrai problème d'affordance. Je veux dire, l'affordance, c'est le fait que par exemple, dans un jeu vidéo, vous prenez l'ennemi de Mario, par exemple, il a une tête de bumper. Pourquoi ? Pour évoquer, en fait, donc le premier Goombas, pour donner la sensation et l'envie au joueur de lui sauter dessus. Parce qu'un bumper, on appuie dessus. Donc, ça nous dit qu'il faut appuyer dessus. De la même manière, c'est des tuyaux dans Mario. C'est pas parce que c'est un plombier, à la base. C'est parce que Shigeru Miyamoto s'est dit, ok, si je mets des tuyaux, quand il va être dessus, le joueur va avoir envie d'appuyer sur bas pour descendre à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle l'affordance, le fait que l'image du jeu nous renvoie aussi les conditions de ce qu'on doit faire sur la manette, en fait. Et là, c'est pareil, le fait qu'il y ait 10 points de vie pour un groupe de 4 points de vie, par exemple, pour un groupe de 10 morts-vivants, bah, ça ne donne pas cette impression-là. Donc voilà, et donc du coup on a passé 3 plombes et on s'est dit non mais là on arrête en fait les combats, en fait on zappe juste ce combat, on laisse tomber, on va pas passer 3 plombes là-dessus et on passe à la suite. Tu voulais dire un truc, François?
Non, c'est vrai que c'est sur le système des points de vie. C'est quand même bizarre parce que dans le livret du maître du jeu, sur le premier combat contre les acolytes, on peut gagner le combat et les trucider et après pleurer notre marmite, c'est pas le problème, mais on peut aussi fuir. C'est important la nourriture. Et on peut aussi fuir, et c'est là où en fait ça me pose question sur le nombre de points de vie, parce que du coup nous à la fin on a fait un groupe de points de vie,
ouais.
Donc genre 10 squelettes, 4 PV. Et là c'est marqué que les aventuriers pour fuir doivent avoir abattu au moins un des 4 ennemis et en avoir blessé au moins 2 autres. Mais en fait c'est là où ça me pose un problème, c'est que sur un groupe complet qui partage un nombre total de PV, je sais pas comment tu peux déterminer facilement l'acolyte B.
C'est vraiment squelette.
Ça, parce que j'ai pas tout lu, mais à la fin, ça m'est voilà. À avoir blessé deux autres d'au moins 6 points de dégâts, ça veut dire que sur le groupe complet des 12, tu peux pas en blesser d'au moins 6 points. Enfin, il y a un truc qui me dérange.
Donc c'est vraiment. C'est vraiment un squelette.
Donc c'est vraiment
l'enfer.
Oh, c'était vraiment 40 PV en plus
cas,
12. Wow.
En tout cas, la base est ambiguë sur ce point.
Ah bah là, du coup, j'ai envie.
Et là, tu vois, pareil, la plupart des gens me diront oui, mais voyons, dans le jeu de rôle traditionnel, quand il y a une règle qui est dysfonctionnelle comme ça, quand les joueurs en ont marre, tu passes à la scène suivante, tu nananana. Mais là, c'est un jeu pour les débutants.
Attention, c'est un jeu pour les débutants.
Puis ça, c'est une règle de base.
Non, et puis c'est un jeu pour les débutants. Ça veut dire que, du coup, si c'est un débutant, probablement, il va décider d'utiliser ça comme on peut utiliser une règle de jeu de société. Et dans le jeu de société, s'il y a une règle qui ne va pas, t'arrêtes de jouer.
Bah oui.
Donc là, en fait, juste, c'est pas possible, en fait.
Et puis une règle de base qui est problématique, c'est compliqué. C'est pas juste à foirer ton crochetage et on trixe le truc en prenant les cheveux de quelqu'un pour voilà, là c'est une règle de combat, on utilise ça quand même toute la partie.
Flavie a lancé l'hypothèse que le jeu n'avait peut-être pas été playtesté. Qui sait, hein, on va
disons que peut-être pas de playtest externe.
Qui sait?
Non mais tu sais, il y a une en fait, je pense que la personne qui a écrit ça, si c'est elle qui l'a playtesté, elle savait ce qu'elle voulait faire en fait. Mais après, c'est intéressant, on fait souvent d'avoir des playtests externes par des gens qui, des fois, ne connaissent pas le jeu de rôle pour voir s'ils s'arrivent à jouer.
Surtout que là, c'est adressé à ces gens-là.
Et du coup,
bah oui.
Là, c'est peut-être ça qui a pêché, en fait, ou peut-être qu'ils les connaissent. Je sais pas, j'en ai aucune idée, mais c'est un vrai questionnement parce que là, tu vois, on est encore en train de chercher dans le livret, voir si on avait raison ou tort.
L'égalité, c'est je sais pas, par exemple, tu vois. L'égalité, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe quand les deux jets sont égaux? Est-ce que t'as la base quelque part? Ah, c'est Géraldine qui l'a. Si tu as la réponse, Géraldine, je la veux bien au final. Parce que
ça... Après, ils disent que le jeu est censé durer une heure et demie. Enfin, c'est impossible s'il y a 40 jets de dés.
Bah oui, donc ça veut bien dire que les règles qui sont fournies avec le jeu ne vont pas avec le jeu. Mais ça pose un gros problème. Imagine que t'achètes un jeu de société dans lequel les règles, elles ne correspondent pas aux attentes. Enfin, je sais pas, c'est rien. En fait, il n'y a pas d'exemple dans le monde du jeu de société de jeu aussi pourri et aussi dysfonctionnel. Tu n'en trouves pas. Et en fait, la question qui se pose, c'est encore une fois, je repose cette question. Quel est l'objectif de cette boîte de jeu? Est-ce que l'objectif, c'est vraiment de faire découvrir le jeu de rôle à quelqu'un qui ne le connaît pas? Auquel cas, bravo, lui donner des règles aussi pourries où on se fait le premier combat, day one, tu t'emmerdes. Encore heureux, parce que là, en fait, nous, on a la chance, on connaît les poncifs du jeu de rôle et tout, et donc on s'est marré, on a imité Neal Buck.
Ah, puis on se connaît.
On se connaît tous.
C'est voilà. Surtout
donc
ça.
On a osé faire des trucs parce que voilà, on se connaît. Mais tu balances ça à des gens... cette boîte, elle a été faite pour un MJ qui connaît en fait le jeu de rôle et qui veut faire connaître à des potes qui connaissent pas le jeu de rôle. Mais
s'ils
si
connaissent le jeu de rôle, pourquoi est-ce qu'ils n'utilisent pas son jeu de rôle ou un jeu de rôle autre pour faire
parce que la question. Mise en place est rapide peut-être.
Ah. Ouais. Donc peut-être qu'ils cherchent un jeu de rôle rapide.
Mais c'est moins intimidant de commencer par un petit jeu comme ça où on n'a pas beaucoup de trucs sur la table, qu'un jeu énorme comme Donjons et Dragons par exemple. sans. Ouais, tu vois, c'est moins intimidant pour quelqu'un qui connaît pas. Et on va jouer, on va venir à la maison, on fait une petite partie de jeu de rôle qui va durer une heure et demie. C'est un peu plus vendeur pour quelqu'un qui connaît pas que ça te dit on passe la journée à tuer un dragon.
Oui, puis là aussi t'as le nom du jeu, l'apérole.
Okay. Ah, justement, j'ai un truc à dire à ce sujet.
Alors, Flavie.
J'ai marqué pendant la partie, pour boire, c'est pas facile. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut t'écouter, raconter, lire les paragraphes. Mais oui, c'est le seul moment
Géraldine,
où tu peux boire.
Tu as le temps de boire quand le MJ lit.
Et du coup, tu les trouves beaucoup plus intéressants. Mais le reste du temps, en fait, vu que c'est toujours dans le même sens, etc., enfin, je trouve que c'est pas un jeu dans lequel c'est facile de boire parce qu'il y a toujours des plus 1 auxquels il faut se rappeler. Je suis désolée, mais moi, au bout de 3 verres, des bonus, en fait, je vais m'en rajouter beaucoup. Hein, et ce sera pas volontaire. Non, et même j'en aurais rien à péter.
Je veux dire, un apérole, pour moi, tu joues avec le matériel que tu as sur la table. Il doit, ton système de jeu, il doit recourir aux bières, il doit recourir aux gorgées, il doit recourir aux chipsters.
Ouais, mais tu passerais à l'incitation à boire, et du coup, je pense pas que ça soit très vendeur.
Non, mais je veux dire, enfin, ok. Mais quand même, tu vois, enfin, je veux dire, tu fais un jeu qui s'appelle l'apérole, il n'y a aucune mention
par
de l'apéro.
Clairement, je m'attendais à ça.
Non, tu, moi, non, je m'attendais, j'avais amené des chips, j'avais amené des trucs, j'étais là, ça, mais non, pas du tout.
Valentin, tu voulais intervenir? Pardon.
Non, j'anticipe pour après, parce que là je suis sur un site pour voir, il y a quelques avis dessus.
C'est pas vrai?
Si, il y a un avis, ils sont grands, hein, c'est bien analysé. Ouais. Il y en a un qui dit bien, ils n'ont pas appelé tester le jeu.
Ah oui, d'accord, ouais.
Et je pense qu'ils ont fait la même règle que nous avec les personnages, hein, c'est-à-dire que ils ont pris les 10. Non, ils ont pris les 10 et.
Ils ont fait 10 fois 4, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça.
Mais ça paraît logique en même temps, parce que quand t'affrontes un ennemi dans un jeu vidéo, il a 10 points de vie, donc c'est logique, c'est pas à ta
fond. Ça paraît logique. Mais néanmoins, donc pour en revenir à la conversation qu'on avait tout de suite avec Flavie, pour moi, le jeu se vend sur le nom du jeu.
Le concept.
Oui, clairement.
Le concept, c'est de dire, vous allez faire... Attends, Géraldine, quand tu parles, parle dans les micros.
Ah oui, pardon. Non, mais en fait, les objets sont tous expliqués, là. Les lunettes de la lune.
Simple. C'est pas pour regarder sous les vêtements, alors. Hein.
Bah, c'est marqué simple, élégante, au vert enchanté. Ces lunettes permettent à Eldon de voir la nuit comme en plein jour et à travers les vêtements.
Et à travers
les vêtements. Donc en fait, on est bon.
On était bon.
Mais pour le coup, en fait, tous les objets des personnages sont expliqués.
Alors vas-y, décris ce qu'ils font du coup.
Alors, bah moi j'avais...
Je les avais lus, mais je croyais... Alors là, pareil, erreur de game design. Tu vois, là, c'est pareil. Moi, je les ai lus dans la base. Je les ai tous lus, c'est pour ça que je te disais.
La bourse s'enfonce. Mais, si, s'en fond,
mais sauf
expliquent.
Que... Vas-y, la bourse s'enfonce, ça fait quoi?
L'ancienne magie des gnomes, c'est rendre les choses plus grandes à l'intérieur. La bourse s'enfonce permet à Eldon de ranger toutes les choses qu'il aime avoir avec lui, ainsi que ses différents butins. Ça sert à rien, quoi. Enfin, là dans le jeu, ça
c'est clairement un truc qui nous a
en fait,
pas servi.
Le
quoi.
Truc, c'est que quand bien même les objets auraient des définitions et des explications clergées, pourquoi diable ne pas les avoir mis sur la fiche du personnage?
Ouais,
parce que moi je les ai
lus. C'est
lu.
Le MJ du coup.
Moi je les ai lus. C'est-à-dire en tant que MJ, je les ai lus ces trucs. Je les ai lus chez tes parents. Je les ai lus et je me souvenais qu'il y avait effectivement des effets. Mais seulement je me suis dit que ça allait être écrit sur la feuille de personnage vu que j'avais vu que sur la feuille de personnage les objets étaient expliqués. Donc moi je me suis pas posé
ils
de questions.
Pas expliqué, ils sont nommés.
Ok.
Avec
moi, je
une petite
pas,
image.
Moi, je me suis pas posé de questions, je me suis dit. Bah,
et là,
voilà, quoi.
Tu vois, moi la poudre de sommeil, je l'ai mal utilisée. Au final, c'est une poudre pour que les gens récupèrent du. C'est un sommeil profond et réparateur. Et ce en quelques secondes seulement. Donc en fait, c'est pour récupérer des points de vie.
Attends. Donc ton personnage qui est censé être la reine du crime,
elle a de la poudre de sommeil pour faire un bon dodo.
Elle soigne les gens.
Elle fait un bon dodo.
Elle est jolie. Elle peut se cacher.
Oui.
Wouhou! Chaleur! Et elle s'est pas fait chier, hein. Mais heureusement qu'elle a rigolé, Géraldine, hein, parce que.
Mais elle a bien utilisé sa poudre au final, puisqu'elle s'en est servie sur les acolytes et on a considéré qu'ils s'endormaient. Mais ils étaient pas censés.
Comme elle est censée fonctionner quelques secondes, c'est
quand
compliqué.
Quand ils sont réveillés, ils étaient au top de leur forme.
C'est ça. Prêt pour un deuxième round.
Génial, prêt pour boire une autre bière. Alors, mais tu vois, donc j'en reviens à cette histoire. Donc d'abord, les objets, ok, ça s'est vu. Si vraiment ils avaient un intérêt, il fallait mettre les bonus sur la feuille, comme c'est le cas pour tous les autres objets qui apportent des bonus ou toutes les autres classes, tout est sur la feuille, donc pourquoi pas les objets? Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, j'en reviens au titre, l'apérole. Ça, c'est hyper important, l'apérole. Parce que pourquoi? Qu'est-ce que vous chuchotez? Je vous entends. Parce que, en fait, le jeu te vend un désir qui est de transmettre à l'apéro le jeu de rôle aux gens que tu connais. Les jeux apéro, c'est des jeux qui sont facilement accessibles par n'importe qui, en très peu de temps, qui te promettent du fun rapidement. C'est ça un jeu apéro. Et donc quand on te vend un jeu qui s'appelle l'apérole, on te dit je vais réussir à faire du jeu de rôle un jeu apéro. Et parce que pour vous, le pari est tenu avec l'apérole. Est-ce que pour toi, on a réussi à faire d'un jeu de rôle, enfin, comment dire, un jeu apéro, ouais, du jeu de rôle. Est-ce qu'on a réussi à transformer le jeu de rôle en un jeu apéro? Est-ce que pour toi, c'est réussi?
Bah, pour la franche rigolade d'un jeu apéro, je dis oui, oui, oui.
Et l'apéro, il dure 1h30.
1h30, ouais, c'est ça.
Oh bah avec les copains, ouais, ouais, ouais. Mais je pense qu'on a arrêté de jouer avant de finir l'apéro, c'est sûr. Mais pour la franche marade autour d'un verre, je pense que, ouais, mais pas plus de 3/4 d'heure en tout cas. Je pense qu'on finit pas le jeu.
Flavie.
Juste, Valentin, il y a des moments où moi j'ai eu l'impression que t'étais en colère pendant la partie.
Ah, bonne question. Oui. Alors vas-y, passe le micro. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui t'a mis en colère?
C'est quand je voyais toutes les cases à cocher et le lancer de dés, parce que... moi ce que j'aime bien c'est souvent aussi dans ce jeu de rôle classique, c'est quand je suis maître du jeu ou quand c'est toi qui anime ou quelqu'un d'autre, le fait d'avoir la possibilité de lancer le dé, on sait qu'on va se faire chier parce qu'on joue sur le hasard, mais de faire une description et puis de faire rigoler, c'est marrant, mais quand tu le fais au bout de 10 fois et que tu fais t'avances de 15 mètres et puis tu repars avec le double de lancer
le dé. C'est vrai que t'arrives vite à court d'imagination au bout d'un moment.
À la
quoi.
Fin, on lance le dé.
Quand tu fais le 30e coup, même toi, Romaric, je trouve qu'on a dit, c'est bon, allez, on lance le dé, on y va, on avance. Parce que quand t'arrives au 30e tour contre le 3e clochard de bandit, ça devient compliqué.
Mais
quoi.
C'est ça, c'est le...
On lui a acheté une table, une marmite, on l'a endormi, on lui a lancé un chien en feu à la tronche. Enfin, au bout d'un moment.
Et puis à un moment, elle a eu des superbes idées, Géraldine, et il n'y a eu aucun bonus. C'était là, on était tous là. Ah, oh, c'est con, il aurait fallu des bonus, quoi.
C'est ça, en fait. Le truc, c'est que, ok, alors, petit 1. Étant donné le nombre de points de vie et le nombre de tours qui sont nécessaires pour tuer un ennemi, tu peux pas avoir assez d'imagination pour décrire des choses intéressantes. Si tu dois faire 40 tours pour tuer un squelette, mais un groupe de squelettes, même 40 tours, et encore je suis gentil, c'est 80 la statistique. Un peu moins de 80, on va dire, parce que vous avez des petits bonus, allez, on va dire 70. Mais tu vois ce que je veux dire, ou 60. Mais imagine déjà 60, quoi. Je veux dire, faut avoir l'imagination. Donc c'est pas possible. Deuxièmement, comme ça dure trop longtemps et que c'est toujours le même ennemi qu'on tape, bah, au bout d'un instant, on pourrait varier le truc. C'est-à-dire que si c'était 60 tours, mais à chaque fois sur des ennemis différents et dans des situations différentes, là, on aurait de l'imagination. Ce qui crée le truc ad nauseam, c'est le fait que ce soit toujours sur la même situation. Valentin voulait intervenir d'abord, ah non, peut-être. Non, alors Flavie. Bon. Flavie, enfin, ouais, voilà.
Juste, n'oublie pas ce que tu voulais dire. Ce qui aurait été cool, c'est s'il y avait eu des bonus en fait à ajouter à ça. Parce qu'ils disent à un moment qu'il faut motiver les gens autour de la table à raconter des trucs et tout. Bah en fait, déjà, si on s'était dit, ah, si je raconte des trucs cool, ça fait des bonus. Donc au lieu de lui faire un, je lui fais deux, trois. Déjà, tu fais baisser largement le truc. Et, tu vois,
tu peux lui faire plus de points de vie à ce moment-là. Mais même en rajoutant des bonus, hein, quand tu dois faire 60 fois une description, enfin, ou tu vois, mettons, vous étiez trois, 20 fois.
Ouais. Bah à la fin c'était et là je lance un dé.
Ouais, c'est ça.
Oui, ou alors il faudrait des tricks pour en tuer plusieurs d'un coup. Voilà. Le groupe de squelettes par exemple. Voilà, il y a un moment donné t'as cité une règle où il fallait qu'on fasse une description très enjolivée, très très théâtrale un petit peu d'une situation.
Oui.
Et bah à la limite si à ce moment-là contre le groupe de 25 squelettes là.
Mais tu peux le faire qu'une fois par partie.
Et tu vois oui mais tu vois, si à ce moment-là tu l'as fait mais que je sais pas t'atomises le groupe complet ou la moitié, ça devient plus intéressant déjà. Mais si c'est juste pour faire, eh bah t'as fait un dégât,
mais
félicitations.
Si t'as raté ta règle de panache, tu meurs. Hein. Enfin, en l'occurrence, tu meurs. Enfin, si c'est contre Garth, je crois seulement.
Après, voilà. on va pas voter contre nous.
Valentin.
Non, non, ouais, du coup.
Non,
mais
si tu rates ton jet de défense.
Ouais. Ouais. Ah oui, non, je pensais que c'était le vote, non. Des. Ah oui, non.
Ah oui, peut-être, je sais plus. Vas-y, Valentin.
Ouais, du coup, là, j'ai regardé là, pendant 5 minutes là, les avis critiques. Là. Il y a une demi-douzaine de personnes qui ont commenté. Qui ont bien commenté, hein, qui ont fait une belle analyse. Et ils sont.
C'est sur quel site, juste pour info? C'est Trick Track?
Toc, toc, toc.
Ou c'est quoi?
Que je te dis.
Oh, tu me diras après.
Philippe Bern.
Bien sûr, ok, ouais, très bien. Référence.
Donc clairement, la plupart des commentaires, ils sont d'accord que ça n'a pas été playtesté en fait, ça a été à la fin vite.
Ouais.
Ils ont souligné toutes les incohérences qu'on a.
Ouais.
Et mince, qu'est-ce que je voulais dire d'autre là-dessus?
On parlait du
et
fait
il manque des pouvoirs. Il manque les pouvoirs, en fait, une possibilité, hormis les talents de chacun.
Ouais.
Il n'y a pas de magie de pouvoir particulier.
Se servir des objets pour...
Bah, là, tu soulèves un bon point. Mon personnage, c'était un mage. C'est marqué sur sa fiche.
Il n'y a même pas de magie.
Magie blanche, guérison.
On sait pas.
Bah en fait, le seul truc qui nous a soigné, c'est le jeu quand il dit t'arrives là, bah t'es soigné, c'est bon, t'inquiète. Et ouais, c'est dommage en fait.
Ouais, c'est dommage. Ouais.
Combien vous pensez, alors j'ai pas le nombre de votants, mais je dirais une toute petite dizaine.
Ouais.
La moyenne sur 5 étoiles ?
Bah, c'est
2.
C'est une étoile.
Parce qu'on peut pas mettre
non,
moins.
2 étoiles, ouais, 2 étoiles.
Ah, c'est à 2,8 sur 5.
Ah,
ouais, c'est parce que tu rigoles bien au final.
Ouais,
c'est...
ouais
parce que, les parce gens, que tu finis par.
C'est le seul truc qu'on s'y retrouve dans les commentaires, c'est qu'ils sont marrés. Ouais,
mais c'est pire que
comme
ça.
Faut faire 80 tours, t'es obligé de trouver des situations un peu lunaires et ça devient drôle.
Mais non, les gens l'ont bien noté parce que c'est du jeu de rôle. C'est tout. Point final. Ce serait un jeu de société qui serait vendu comme ça, il se serait fait tailler en pièces. C'est juste qu'avec le jeu de rôle, on est gentil. Parce qu'on est content que GastronoGeek, que le joueur du grenier, que Maxime Chatham, ils parlent du jeu de rôle. Et donc, du coup, on leur donne des bonnes notes. Alors que pourtant, ce qu'ils font, aventure c'est des d'ailleurs, jeux basiques qui n'apportent rien aux médias.
Faut qu'on en parle, ouais, de. Peut-être que. Enfin,
J'adore Flavie. Ouais. tu ajoutes une couleur entre le feu qui fait comme s'il y avait un bruit.
Parce que le depuis, chaos,
depuis tout à l'heure, le bruit du feu, ça fait comme s'il y avait un parasite dans les micros. C'est formidable. Maintenant, tu fais tomber tous les trucs. Mais tu sais,
désolé ceux qui écoutent avec des écouteurs.
C'est pas obligé. Hein, le feu laisse le. T'inquiète, on va avoir chaud. Et tu disais Valentin.
Ouais, du coup, oui. Quel est le but de Gastronomie? Geek, tu me l'as annoncé avant de commencer le jeu là à l'intro. Ouais. J'étais pas au courant, mais tu le vois nulle part. C'est même pas vendeur, on le voit pas. Pourquoi pourquoi lui demander de faire?
Il y a peut-être une raison.
C'est son John Smithy game.
Alan Smithy game.
Ah oui,
Alan Smithy, on rappelle que c'était donc les réalisateurs. Voilà, Alan Smithy, c'est le nom que les réalisateurs, c'est le nom qui est donné au film. Que les réalisateurs ont renié ou n'ont pas signé. Par exemple, la version de Dune de David Lynch, la version longue de Dune de David Lynch a été faite par je sais pas d'ailleurs qui l'a faite, mais elle est signée Alan Smithy Game parce que David Lynch a renié cette version. Tu vois, donc c'est les Alan Smithy, c'est des films. Donc là, la question c'est est-ce que justement il n'a pas voulu apparaître trop visiblement sur ces boîtes parce qu'ils savaient que c'était pas très vendeur. Moi je pense pas.
Pas piqué sur internet, peut-être un scénario qu'il a fait une fois. Parce que je crois qu'il anime des jeux.
Alors, je voudrais te dire juste un truc, hein, c'est qu'il est tellement neutre que je suis sûr que ChatGPT il fait des meilleurs scénarios que ça.
Après, est-ce qu'on
est-ce
qu'on peut penser qu'il a eu une deadline ultra courte et que n'étant pas satisfait du résultat, il a fait hop, hop, hop.
C'est possible. Après, c'est l'apéro. On s'est dit, tiens, c'est GastronoGeek qui va s'en occuper parce que c'est un jeu apéro.
Bah d'ailleurs,
un jeu saucisse.
Je sais pas si vous avez vu la polémique récemment. Là, je sors un tout petit peu du sujet avec un youtubeur jeunesse. Là, j'ai plus son nom. Où il a pareil, il a sorti un jeu de société.
Ah, Michou.
Michou, ouais. Et il a dit qu'il a mis 6 mois à créer le jeu avec son équipe, super fier et tout ça. Il sort un jeu. Pour les moins de 7 ans, enfin à partir de 7 ans.
Ouais.
Et dedans, il y a des questions sexuelles avec des questions. C'est un jeu d'humour, mais avec des questions sexuelles sur la consanguinité, tout ça et ça, avec un jeu des 7+. Et derrière, les parents ont fait des retours énormes. Et voilà, Bad Bud, une petite parenthèse comme ça.
Mais oui, mais ça, c'est les jeux qui n'ont pas été playtestés ou qui sont annoncés. En fait, c'est les hiatus entre le monde de l'édition et ses exigences. Et ce qui est fait, effectivement, c'est aussi. Là, ici, en l'occurrence, je te dis, c'est les poncifs du jeu de rôle aussi qui rattrapent le média, tu vois. Là, le média est rattrapé par le loisir. Le jeu de rôle média est rattrapé par le jeu de rôle loisir. C'est-à-dire que c'est là, ici, on vante le jeu de rôle loisir et donc faire du jeu de rôle une saucisse, quoi. Flavie, tu voulais intervenir. Mais c'est ça, c'est une saucisse cocktail. Ouais. En fait, je te posais une question tout à l'heure, Fly. C'est est-ce que tu penses que ce jeu a fait du jeu de rôle un jeu apéro? Et j'ai pas eu le temps de finir mon tour de table. On a changé de sujet du coup, mais c'était intéressant ce qu'on a dit. Mais
non.
Mais non.
Non, pour plusieurs raisons. Le jeu de rôle apéro, pour moi, j'aime bien les jeux apéro. Voilà. Je trouve ça marrant. Ça permet d'entrer en relation avec des gens, de discuter avec eux.
Quand on les connaît pas.
Quand on les connaît pas, par exemple. Ouais. Moi, je trouve que un jeu comme le jeu de rôle de de super-héros que j'avais fait Superclic réussit mieux en fait, parce que le système est plus rigolo. On va jouer avec un poncif, mais avec un système qui le soutient. Du coup, on va pas avoir l'impression de jouer contre le jeu, mais on joue avec le jeu.
Fiasco.
Donc du coup, au lieu de s'unir ensemble contre un truc, parce que du coup, on n'a pas le choix, parce que sinon, on va passer un moment de merde. En fait, un jeu apéro, il est censé souder, mais souder ensemble, pas contre. Donc souder avec. Et du coup... Là, pour moi, ce jeu de rôle apéro, il manque en fait sa cible. Parce que du coup, on s'unit contre quelque chose plutôt que pour passer une bonne soirée. Et ça me pose question en fait, tu vois. Parce que du coup, normalement, le jeu de rôle apéro, il est un peu dans ton petit cœur. Genre, c'est le petit truc, le petit plaisir un peu caché que t'aimes bien faire et que tu sors un peu comme un mauvais film avec un beau gosse que tu regardes de temps en temps et que tu regardes avec ta meilleure pote en disant ouais c'est le moment où il est torse nu, voilà.
Blanche-Neige et le chasseur là, je pense.
Il n'est pas torse nu dedans, c'est très décevant.
Le Chevalier du Zodiac, Chériu, tout ça.
Non, c'est pas ça. Je pense à des films bien pires que j'ai regardés avec des copines. mais voilà. Et là, tu prends l'apéro et à chaque fois qu'il est torse nu, tu bois un coup. Enfin, le jeu de rôle apéro, il est censé pouvoir déjà te permettre de boire en riant, limiter un peu l'inhibition, mais pas te faire trop boire non plus. Il est censé te permettre de pouvoir jouer avec la chips, de pouvoir faire des choses comme ça, et en fait, créer une ambiance qui va continuer dans la soirée. Là, en fait, ce qui me gêne, c'est qu'à la fin, on a regardé ce qu'il fallait faire, on était censé, du coup, on s'est dit, la seule façon de réussir, c'est de buter le perso de François, pour qu'il soit imbutable après et qu'on bute Garth.
Ça, c'est pareil, Garth, il est infernal.
Alors, déjà, merci, mais c'est 1h30, un jeu de rôle apéro, pour moi, c'est 20 minutes, parce que si tu meurs au début du scénar, en fait, tu fais quoi après? Et c'est possible de mourir au début. Et puis ensuite, si c'est vraiment un jeu apéro, on s'unit pas pour buter quelqu'un à la table en fait. On s'unit tous pour pouvoir buter le monstre.
Ah, parce que là, t'as buté François à la fin.
Oui, parce que c'était
le projet.
Il était consentant. Il pouvait pas se suicider, sinon ça marchait pas son pouvoir.
Parce que mon perso, quand il mourait, devenait un esprit qui ne pouvait plus mourir. Alors c'est peut-être
là.
C'est ça, contre les boss. Et c'est peut-être là qu'ils avouent eux-mêmes que leur jeu est trop dur. Obligé de rentrer un perso imbutable pour pouvoir gagner la partie, c'est peut-être un aveu de faiblesse aussi.
Imagine, éclate à la fin. Tu lances un dé, toi tu perds pas de points de vie, et puis tu es sûr de te gagner.
Bah en fait, alors, c'est... Je suis pas allé au bout de l'explication, parce qu'il n'y a pas eu lieu d'être, et parce que je voulais pas déprimer tout le monde, mais en fait, une fois que je suis en sorcier... Si j'échoue, enfin une fois que je suis en esprit, si j'échoue à un dé contre le boss,
passes un tour,
je passe mon tour.
Ouais, c'est ça.
Ça peut durer encore plus longtemps, c'est bien, on va tous mourir sauf toi en fait. Et donc toi, tu restes là, seul esprit. Enfin, je veux dire, je suis désolée, c'est pas
après,
un jeu apéro, c'est
le gamin qui est puni, qui a plus droit d'être à table avec les autres, quand t'es là avec ton dé comme un con tout seul, là, tout le monde est en train de bouffer sa blanquette de veau.
Et ben, on va tous se regarder avant, faire bon, on fait quoi? Bon, on sort un Munchkin. Je veux dire. Munchkin est plus un jeu apéro pour moi que ça en fait.
Ouais,
si tu veux célébrer le canon du jeu de rôle, enfin.
Clairement. Donc pas pour l'apéro, hein, Géraldine.
Non,
surtout pas. Hein.
Non, je pense que même pas en initiation de rôle,
Non. Bah, tu vois, c'est ça la conclusion à laquelle on arrive après playtest, c'est de se dire que pour initier au jeu de rôle. C'est pas bien, quoi.
Ulysse 31 était mille fois mieux. C'est pas pour faire de la lèche ou autre, parce que globalement, j'ai fait trois parties de jeux de rôle dans ma vie, tu vois. Celle-là, c'est la troisième. Ouais. Et bon, on m'aurait présenté le jeu avec ça, j'aurais fait blanc manger coco, c'est parti, c'est mieux.
Mais quelque part, est-ce que, moi, c'est une vraie question que je me pose, quand on voit ce genre de jeu, et ça fait plusieurs fois que j'essaye, en fait, des boîtes d'initiation de jeux ou des trucs comme ça, est-ce que quelque part, en fait... C'est pas ce qu'on nous vend comme étant le jeu de rôle. Moi, je me pose vraiment la question. Parce que le coup de la taverne, machin... Regarde, le donjon de Nealbuck, c'est un peu pareil, tu vois, ces trucs... Et c'est censé être, pareil, une tête de proue. Alors, peut-être pas du jeu de rôle, mais de la galaxie rôliste, à minima, clairement. Les initiations à Donjons et Dragons, Héros et Dragons et compagnie, les scénarios, c'est souvent des trucs comme ça. C'est vous devez garder. Alors, moi j'avais vous devez garder une charrette et en fait sur la route vous allez tomber dans une embuscade, tu vois. Ça, c'est le truc classique.
Ouais, mais tu vois, pour le même temps de jeu, je trouve qu'on s'est plus amusé à Mini Rogue.
Oui, mais c'est pas du jeu de rôle, Mini Rogue, par contre.
Ouais, mais t'es. Ouais.
Oui, mais.
Et attention à la version de Toulouse aussi. Hein.
Comment ça?
En initiation.
Avec une pieuvre.
L'apérol en
Ah ouais, 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 c'est pas le seul qui a été fait. Oh là là,
oh là là. Mais bon, jeu le mois prochain.
Ouais, pas de problème, hein, je vais servir le prochain, la prochaine.
Non, 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 mais c'est quoi ce délire? Mais j'espère qu'il est mieux, hein, parce que franchement, celui-là, c'est quand même carrément une bouse.
Bah, ça se trouve, ça serait exactement le même mode de jeu, ils auront juste changé le lore.
On va le remettre dans sa boîte, tout en état, tout ça. On va sortir avec une grande cape, un chapeau, on va croiser quelqu'un, fait tiens, le jeu de rôle.
Non, mais... C'est pas là, on lui dit, mettez-le en sûreté.
Mais tiens, est-il caché? Est-il en sûreté? C'est comme Gandalf, tu sais. Non, mais franchement, c'est merde, quoi. Je veux dire, on a quand même un média qui est quand même hyper intéressant. Le jeu de rôle, tout le monde dit que c'est émancipateur. Maxime Chatham, le joueur du Grenier, tout le monde veut montrer que le jeu de rôle est un média émancipateur. Et à chaque fois, on nous en propose des initiations comme ça. Et moi, ça m'interroge, ça, vraiment. Vas-y, Fly, je t'en prie. Mais...
Là, c'est la métalleuse qui parle. Les métalleux n'ont pas peur de dire qu'ils écoutent de la musique que personne n'y va aimer et on en a rien à foutre, et voire même quand on voit plein de gens arriver au Hellfest qui n'y connaissent rien, ça nous prend la tête et on a juste envie de vous dégager à coups de pied dans le cul, quoi. Et ben, ouais, tu rigoles parce que toi, ouais, tu vas y aller pour voir Muse. Je te regarde même pas quand je parle de
tu
ça.
Tu parles des Fury Fest, du Motoculteur. Non, tu parles du Motoculteur. L'Hellfest, ça n'existe pas. Non, mais c'est quoi l'Hellfest?
L'Hellfest, maintenant, c'est devenu un espace pop, a priori, vu que maintenant il y a Muse
ça.
Dedans.
Il y aura bientôt Manuel Valls au Hellfest, si ça continue.
Ah, quelle horreur.
Je suis chaud.
Non, mais à un moment, en fait, je parle de ça parce que c'est malgré tout une contre-culture aussi. Tu vois, on peut considérer que le jeu de rôle fait partie de la contre-culture.
Oui, oui, d'ailleurs, il y a plein de métalleux qui jouent au jeu de rôle.
Oui.
Et inversement.
Et en fait, les métalleux n'ont pas peur, ne sont pas en train de s'extasier. les métalleux s'extasient pas quand il y a quelqu'un qui dit oh super, ils ont parlé de ma chanson de métal, pas du métal au JT. On s'en branle, en fait.
Ouais, ça, c'est une
à un moment, en fait, c'est une contre-culture. C'est quoi cette contre-culture qui s'extasie dès que quelqu'un d'un tant soit peu connu fait un jeu dessus, genre oh ils ont parlé du jeu de rôle et on partage tout? Mais on s'en fout, en fait. Et à un moment,
parce que
en fait,
les gens ont l'intuition que c'est un média. Alors moi, je suis désolé, je m'inscris. Je comprends cette nécessité de vouloir faire de la pédagogie pour le média. Encore une fois, parce que c'est un média qui est intéressant, qui permet en fait de développer des qualités qui sont intéressantes, du collectif. J'ai envie de dire, dans une société ultra individualiste, ça fait plaisir de voir un média qui parle de collectif. Je comprends qu'on puisse avoir envie de faire la promotion du média, mais la question que je me pose, c'est pourquoi, quand on veut faire la promotion, alors même si encore une fois ça peut être ridicule effectivement de vouloir faire la promotion de la musique, du cinéma ou quoi ou qu'est-ce, mais je comprends qu'on ait envie que le jeu de rôle soit plus joué. Tu vois, ça, je le comprends. Et donc, du coup, qu'on cherche des modes, en fait, d'expression et des façons de rendre le jeu de rôle plus accessible, de quelque part, de démocratiser le jeu de rôle, je le comprends. Je le comprends. La question que je me pose, c'est pourquoi avec des jeux de merde comme ça?
Mais parce qu'ils essayent de le faire sur un temps de jeu de société. Pour que justement des gens soient pas
mais les jeux de
apeurés.
Mais ça existe déjà. Je veux dire, tu prends par exemple un jeu comme Sombre Zéro, que je citais avant, des sous-boc, 15 minutes, il n'y a pas de joueurs, il n'y a que des victimes, ça te fait ça très bien. Je veux dire, ça existe déjà.
Oui, mais là, tu parles de quelqu'un
et
qui
en
est
plus,
dans la contre-culture.
Dans la
oui, mais tu parles de quelqu'un. Là, on parle de grandes maisons, je veux dire, là, c'est Hachette. Je veux dire, ils ont envie d'avoir une boîte, ils ont envie de vendre le truc, en fait. Donc, ils veulent s'ils vendent uniquement à des rôlistes, ben, en fait, c'est pas assez de, il y a pas assez de joueurs, en fait. Donc, du coup, ils veulent à la fois viser le rôliste et à la fois viser le jeu de société. Je suis d'accord avec Géraldine, en fait.
Mais alors, dans ce cas, pourquoi faire un jeu de société? Parce que les jeux de société, ils sont playtestés, ils sont joués, ils sont bons, quoi.
Mais parce qu'ils essayent d'avoir les deux niveaux, en fait. C'est une maison d'édition.
Avoir un bon jeu de rôle en une heure et demie, en fait.
En fait, ils veulent avoir à la fois les rôlistes et le jeu de société. Enfin, pour moi, c'est l'impression que ça donne quand je joue à ça.
Je suis pas d'accord. Il existe des très bons jeux en une heure et demie. Mais même beaucoup de bons jeux de rôle en une heure et demie.
Oui,
mais,
ça c'est vrai.
Mais de médias, tu vois. Mais encore une fois, seulement ils sont pas, effectivement, ils sont pas forcément accessibles. Ouais. Et encore, tu vois, je suis même pas sûr. Tu vois, tu prends un prosopopée de Frédéric Saintès, il tiendrait très bien dans une boîte comme ça en initiation, quoi. Et tu joues en plus des créatures à la mouchichi et tout, tu pourrais mettre des petites grenouilles, des petits crapauds trop mignons sur le truc, des esprits. Tu vois, je veux dire, il y a plein de bons jeux d'initiation. Pourquoi les éditeurs de jeux de rôle choisissent systématiquement
Ils ne vont pas chercher les amateurs de mouchichi, ils cherchent les amateurs de D&D. Il y a un dragon, il s'appelle Foudre Ciel.
Mmh. Ouais, c'est ça.
Et à la fin, il y a un peu, il y a presque un donjon. Ouais.
Et c'est ça.
Parfait.
C'est qu'en fait,
il y a une carte qui sert à rien.
Tu vois,
là, il y a le village, là, il y a un chemin, à la fin, il y a le château.
C'est vrai qu'on n'en a pas parlé.
Qu'est-ce que j'ai ri,
inutile de fou, cette carte. Surtout pour une carte qui est bien pompée sur celle de The Hobbit, des films. Au début, je pensais que t'avais sorti celle-là sur internet, tu vois. Non, mais c'est vrai, parce que elle est designée exactement pareil.
Oui, c'est vrai.
Il manque juste le petit dragon et encore la petite rivière. La rivière qui descend fait penser. Enfin, c'est la même carte.
Ouais. Et tu vois,
on s'est pas embêté.
L'autre jour, avec Gogots et Globo, on parlait de l'hégémonie de Donjons et Dragons. Et on se demandait, mais il y avait des gens qui me disaient, mais en quoi c'est un problème que Donjons et Dragons soit hégémonie? Qu'est-ce que ça vous prouve comme problème? Et ben là, voilà, voilà un exemple typique. C'est que ça enferme le média jeu de rôle dans le loisir qu'est Donjons et Dragons. Et comme Donjons et Dragons est hégémonique, les gens, les éditeurs comme Hachette qui se disent comment est-ce que je peux transmettre le jeu de rôle, ils se disent pas comment je peux transmettre ce média génial qu'est le jeu de rôle et qui permet de faire autant les petites choses oubliées de Christophe Guillaume Beuclet, Mouchichi, Prosopopée de Frédéric Sintès, etc. Ils se demandent comment faire en sorte que les gens jouent à Donjons et Dragons. Seulement, Donjons et Dragons, c'est un jeu qui est déjà tellement plein de poncifs. Enfin, il y a des gens qui ont très bien étudié ça, en fait, comment l'univers de Donjons et Dragons n'est même pas un univers de médiéval fantasy. Comment c'est juste, en fait, un bête univers carnassier où les gens se battent pour de l'argent. Les seigneurs ne sont même pas des seigneurs parce qu'ils n'ont pas de vassaux. Les rois ne sont pas des rois parce qu'ils n'ont pas de seigneurs. Enfin, voilà, quoi. On n'est même pas dans un univers médiéval et il n'est même pas fantasy. Alors, merde, c'est rien, en fait. Donc, il y a un moment donné. Tu vois, on veut nous transmettre, nous guider vers le jeu de rôle qui est Donjons et Dragons. Et donc, c'est ce que dit très bien ici Flavie, et je suis d'accord avec elle. Le problème, c'est que... Voilà, et donc, d'où la question. Est-ce que ce jeu est une bonne initiation au jeu de rôle?
Je pense qu'on a déjà répondu plusieurs fois, hein, on a dit non. Hein. Mais on n'a pas dit non en disant non comme ça, on a donné des arguments.
Alors non.
La réponse est non. Et en plus, si quelqu'un connaît pas le jeu de rôle et tombe là-dessus, comme disait François, bah moi je veux pas refaire de jeu de rôle en fait, je vais retourner sur le jeu de société.
En même temps, tu t'es poilé comme ça pendant une heure et demie.
Ah mais moi j'ai beaucoup ri, mais je pense que c'est pas tant le jeu que la compagnie qui m'a fait marrer.
Ah,
ouais, il y a peut-être de ça. Après,
le produit en a fait beaucoup et puis l'autre imagination derrière
non,
aussi.
Mais voilà,
quoi.
On a
sinon,
beaucoup rigolé parce qu'on a dit beaucoup de bêtises et Flavie l'a dit tout à l'heure en fait. Il y a un moment donné, et désolé, mais on t'écoutait même plus raconter tes paragraphes à la Baudelaire. Moi, arrivé à la description du diamètre du tronc du chêne, j'étais plus occupé. Non, mais c'est vrai, j'étais plus occupé.
Et mon dilettante.
J'étais plus occupé à taper du pied pour faire la mesure de la chanson de Flavie, quoi.
Bah oui, bien sûr.
Et
c'était beau, ce duo.
Après, c'est peut-être compliqué d'amener les gens vers le jeu de rôle. Pour les gens qui n'y connaissent rien, c'est peut-être un peu flippant. Donc, peut-être qu'on peut dire que commencer par une boîte comme ça, c'est une bonne idée. Est-ce que au final, une fois qu'on a fini la partie et qu'on a vu que Palpatox, il était imbutable, bon, je suis pas sûr qu'on réitère l'expérience par contre.
30 points de vie, hein, des 20.
Non mais c'est ça, mais c'est surtout que t'y vas un par un. Et en fait, là où je trouve ça dommage dans l'idée, c'est que, on en parlait avec l'histoire de jeux vidéo tout à l'heure, c'est que t'as pas l'idée que tu peux agir sur le combat pour te défendre. Par exemple, au moment où il va te lancer des éclairs, tu peux pas dire, bah là je vais tenter un jet d'esquive pour me planquer ou... Non, t'es là, t'attends. Ah, il m'a tapé. À mon tour. Ah, j'ai loupé. Enfin, tu vois, c'est le côté un peu le côté un peu binaire du combat est stupide. Et effectivement, les descriptions qu'on a faites des combats qui étaient très drôles entre Géraldine qui essaie de crever les yeux à coups de crochet à tricot et moi qui lance mon clébard comme une fronde, bah en fait, ça change rien du tout à l'histoire. Il n'y a pas un seul moment où, par exemple, en lançant le crochet à tricot, elle va crever l'œil du gars. Et comme elle a fait un 10, il va trébucher, prendre feu et enflammer son pote à côté. Non.
Donc,
elle lui a crevé l'œil et elle aura fait un point de dégâts.
L'enjeu, donc, c'est uniquement de faire rire ses camarades autour de la table.
Oui.
C'est ça. Mais pour un jeu apéro, bah, c'est long. Parce qu'effectivement, le principe de l'apéro, c'est que tu joues à ça avant d'aller manger, quoi. Et après, tu fais une vraie partie.
Tu vois, si l'objectif du jeu de rôle, c'est d'être un loisir et de faire rire, est-ce que ce jeu nous a fait rire? Oui, on s'est bien marré.
Est-ce que ce jeu nous a fait rire? Oui, mais en fait, à plusieurs moments, on a demandé à arrêter.
On s'ennuyait. Ouais.
Donc en fait, plus on s'ennuyait, plus on allait dans le porte-nawak. On aurait pu avoir un porte-nawak intéressant sur un autre jeu. Et là, on aurait ri pareil, parce que c'est nous et qu'on rigole toujours quand on joue ensemble, mais... On aurait pu avoir un truc constructif avec une vraie histoire à la fin, tu vois. Ouais. Et là, c'est pas le cas. Là, c'est le méchant. Je veux dire, on a quand même fini par chanter un truc comme ça à la Star Wars. Enfin, C'est parce qu'on n'en pouvait plus, en fait.
Pour moi, le problème de la transmission du jeu de rôle comme média, c'est qu'il faut savoir à qui tu t'adresses et adapter, en fait, le jeu de rôle que tu transmets le soir où tu le transmets à l'état d'esprit des gens qui sont là, à qui est là, comment... C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de règle, il n'y a pas la boîte idéale pour transmettre le jeu de rôle. Parce qu'il faut... Chacun doit... ce qui va intéresser Géraldine, par exemple, ça va être le collaboratif, l'accessibilité. Ce qui va intéresser, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, Valentin, ça va être au contraire l'immersion dans un personnage, le voyage dans un univers fantastique, etc. Ce qui va t'intéresser, par exemple, François, c'est de rigoler. C'est au contraire, c'est un jeu drôle, au sens vraiment marrant. Et donc, en fait, si on a des personnes qui sont attirées par des choses différentes... on va pas avoir la même façon, en tant qu'amateur de jeu de rôle, de leur faire découvrir le jeu de rôle. Donc, pour être un bon transmetteur de jeu de rôle, ce qu'il faut d'abord et avant tout, c'est bien connaître les gens à qui on veut le transmettre et bien connaître les jeux de rôle et les systèmes de jeu pour savoir quel jeu de rôle utiliser le soir, le jour J, en fonction des personnes YZ. Et c'est ça, en fait. Et donc, ces fantasmes de boîte d'initiation qui seraient pour, en fait, faire découvrir le jeu de rôle, ce n'est qu'un fantasme. Et ça nous pousse nécessairement à réduire le jeu de rôle au plus petit dénominateur commun qui nous unit tous, les dragons, les elfes, la taverne, le méchant et le commanditaire et compagnie et les poncifs. Et c'est pour ça aussi que je vous ai fait faire un espèce de bingo, parce que je me doutais bien qu'à un moment donné, on allait tomber sur ces poncifs-là. On réduit toujours au
Mais
plus petit
vois,
dénominateur
on
commun.
On aurait eu des poncifs à fond pour nous lancer dans la connivence. Avec un bon système de jeu,
ben voilà.
Ça aurait été nickel.
Ben voilà. Mais là, oui,
mais il n'y a qu'une partie. Il n'y a qu'une partie,
a qu'une partie du contrat qui est remplie.
Mais vous me faites jouer à un truc qui gère les deux là. Mais trop bien.
Ouais, peut-être. Mais enfin, voilà. Donc, est-ce qu'on transmet le jeu de rôle comme loisir, activité collective où on se marre tous en profitant des poncifs de fantasy? Ou alors, est-ce qu'on essaye de transmettre un média riche avec des tas avec des jeux profonds dont les systèmes riches nous permettent d'atteindre
en
des propos différents?
Le truc, c'est que je pense pas qu'il faille choisir entre les deux, Romaric, en fait.
Non, je sais.
Il y a une partie qui va être intéressante et l'autre partie qui va être intéressante. Le problème de ce jeu, c'est qu'il ne fait aucun des deux.
Oui, je suis d'accord avec toi, mais c'est juste qu'il faut... Ouais. Enfin,
surtout, il te donne pas à toi en tant que MJ je trouve la possibilité d'emmener les joueurs vers un terrain plus ludique.
Ouais, comme je l'ai dit au début, en fait, c'est le seul jeu de rôle classique que je connais où tu t'emmerdes.
Parce que tu vois, tout à l'heure, tu disais que dans la taverne, avant d'aller voir les deux lascars en capuche, on aurait pu aller parler avec la serveuse et machin. Mais en fait, vu comment la description est faite, bah, t'es comme un moustique avec une énorme lumière, quoi. T'y vas. À aucun moment, moi, en voyant les deux loustiques dans le coin de la table, je me suis dit, tiens, je vais aller demander au barman qui est ce grand pas dans l'antre qui fume sa pipe. Là. Ouais, non, on va aller voir tout de suite, en fait.
Parce qu'immédiatement, il m'a demandé ça, en fait.
C'est ça. Et du coup, à aucun moment, ça nous donne l'opportunité d'aller parler avec la serveuse, les deux cuisinières.
Si vous aviez écouté ce que j'avais narré jusqu'au bout, la serveuse aussi, elle agissait comme un lampadaire qui clignote, puisque, tu vois, elle était justement jolie. On te les décrivait qu'il y avait peut-être un lien entre elle et lui.
Ouais, sauf que le jeu nous montre clairement une photo, enfin une image avec les deux lascars. Et moi, après au moment où je vois ça, je...
S'il y avait une image avec la...
Bah oui, ouais, parce que ça te montre, en tout cas pour une initiation, je pense, ça te montre que tu peux interagir avec ce PNJ là.
Tu vois, là, une fois de plus, tu soulignes un problème d'affordance. Il y a un problème d'affordance, c'est-à-dire que le jeu te pousse
dans ces cas, il aurait fallu une petite étiquette du tavernier, pourquoi pas une photo de la taverne aussi.
Oui, pourquoi pas. Et donc j'en finis par rapport à ce que je voulais. Pardon, vas-y.
Non,
attends,
et puis du gibier aussi qui est renversé par terre. Le drame.
Est-ce qu'on peut changer de sujet, s'il te plaît?
C'est trop dur, Valentin, de revenir là-dessus. Arrête de remettre le couteau dans la marmite. ce que je voulais dire, c'est que du coup, en fait, en nous poussant au plus petit dénominateur commun du jeu de rôle et tout ça, mine de rien, l'apérol fait de la culture du jeu de rôle un objet bankable. Qui sert en fait à attirer. En fait, on se sert d'un fantasme du rôliste qui serait que on pourrait démocratiser le jeu de rôle. C'est un fantasme, parce qu'en vérité, les gens n'ont pas le temps de faire du jeu de rôle. C'est, on n'a pas dans cette société capitaliste où il faut travailler tout le temps et mourir à 67 ans juste avant de prendre sa retraite, on peut pas en fait faire du jeu de rôle, c'est juste impossible, et si vous avez des gosses vous le savez, donc c'est très difficile, donc déjà ça ne se démocratisera jamais, ensuite il faut s'adapter à son public, c'est ce qu'on a dit, donc en fait c'est, il nous vend en fait sur le fantasme de la démocratisation du jeu de rôle, il nous vend une boîte avec uniquement des poncifs et l'entretien du mythe que le jeu de rôle pourrait se transmettre, etc. Et on vous vend ça sur le titre L'Apérole, qui est un jeu de mots, mais en réalité, ça reste un fantasme bankable.
Et c'est dommage parce que le titre est bien.
Le titre est bien, effectivement. Eh bien, est-ce que vous avez des choses à ajouter ou on a fait le tour du bousin ?
Moi, je suis content que l'argent a été pour la boutique de Christelle et pas une grande franchise pour avoir acheté ce jeu-là. C'est le truc bien.
C'est vrai, pas Amazon.
C'est vrai.
Ouais, voilà. Ouais,
c'est ça. Oui, en plus. Ouais. Mais c'est vrai que voilà, c'est triste. Et à côté de ça, Hachette, ils vont pouvoir produire des jeux plus intéressants. Attention, je fais pas une critique de Hachette en tant que boîte d'édition parce qu'ils peuvent éditer des bonnes choses. Et d'ailleurs, les scénarios de Colline et de Simon étaient beaucoup plus intéressants déjà que le scénario d'initiation. Là, la boîte, la première, était déjà un petit peu plus intéressante que le scénario qu'il y avait là. Donc là, il y a un vrai désir de faire du fric avec la mode du jeu de rôle.
Bah, très clairement, je viens de tirer sur l'ambulance, mais ce qui est dommage, c'est que à la fin on a lu la fin du livret de MJ où ils disent « Vous pouvez rajouter tel et tel passage, un souterrain, machin, mais... » En fait, honnêtement, une fois que t'as fini la partie une fois, on l'a même pas fini, mais personne va y rejouer. C'est marrant.
Si,
parce
je vois
que...
pas pourquoi tu dis ça. Moi, Gart, il m'a vachement touché.
Non, mais c'est vrai que c'est marrant. On a joué entre nous, on a bien rigolé. J'ai fait un dessin de mon chien squelette. C'est super, mais jamais on va rejouer à ce jeu-là.
Et pourtant, il y a une poussée à la création à la fin. Tu vois, Flavie nous a lu le paragraphe. Elle nous dit bah, rajoutez des trucs, créez vos propres scénarios. Tu vois,
mais est-ce que t'as envie de recréer un scénario pour être au niveau zéro
est-ce
du gameplay quoi.
Est-ce que t'as envie qu'il dure 3 heures quoi. Déjà, on a failli arrêter plusieurs fois.
C'est
avant.
Ça, en fait, quand là, on a bien compris que le groupe de squelettes, c'est 10 squelettes fois 4 PV. Est-ce que t'as envie de te rajouter un truc pareil quoi. Est-ce que t'as envie de te faire un chevalier noir qu'on a 250.
Mais non, mais par contre, tu
personne
peux te dire,
veut
bah,
souffrir
tiens,
autant.
Je vais modifier le système de ce point de vue-là, je vais commencer à bricoler.
Ouais, change de jeu, en fait.
Oui, bien sûr.
Du coup, on arrive
bien sûr.
Au même problème.
Ouais. Non, je suis d'accord. Mais tu vois qu'il y a quand même ce fantasme de... après l'aventure, tu peux en créer une autre. Oui. Si tu veux, le jeu de rôle, c'est un loisir créatif.
Du coup, ça vaut pour tous les jeux de rôle, en fait. Oui, tous les jeux qui sont liés à l'imaginaire.
Évidemment.
Et du coup, tu vas jouer à un jeu qui a un autre système...
Mais c'est ce qu'on te vend, c'est ce que tu dis.
Ah oui, clairement.
On te vend ça.
On te vend une histoire infinie à raconter.
Voilà. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en tant que rôliste, on se fait toujours piéger.
Et du coup, en plus,
du manque de recul critique.
Il y a un autre truc, enfin, t'as aucune possibilité de monter en niveau du personnage.
Non, je crois pas.
Voilà, c'est ça, c'est vraiment pour faire une histoire.
Bah, si toi, tu peux monter de niveau en mourant, en tant que magicien.
Ouais, moi, j'upgrade avec la mort, ça c'est cool.
Enfin, je suis même pas sûr parce que tu proposes.
Je reviendrai.
La prochaine fois, on te tue dès le début.
Ah ouais, grave, comme ça, tu fais
venir,
comme
en fait,
les fantômes dans Le Seigneur des Anneaux. Ah, c'est plutôt pratique, ces aides de camp.
Oui, c'est ça.
On va rejouer finalement.
Bon, bah, merci à vous toutes et tous en tout cas. Merci Valentin, merci Flavie, merci Géraldine, merci François.
Merci.
Merci, à très bientôt tout le monde.
Salut.
Portez-vous bien et surtout, jouez bien.
Ciao.
Voilà, c'était le podcast de La Cellule. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner. À très bientôt.